This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, prise d'antenne DC, 22h05 précisément pour débriefer ce débat passionnant que vous avez pu suivre il y a un instant entre les deux candidates Renaissance et Reconquête, Valérie Ayer face à Marion Maréchal, un débat plein d'enseignements qu'on va débriefer tous ensemble pendant cette première demi-heure avec Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir chère Tatiana, journaliste politique, le service politique de CNews dignement représenté, Yoann Uzaï évidemment, comme chaque soir, Florian Tardif qui vient également nous apporter son expertise. Bonsoir, cher Florian. Et évidemment, Éric Revel est de la partie pour revenir sur cette heure d'échange.
On ne va pas avoir grand-chose à dire avec tous ces spécialistes. Là.
Mais je suis sûr que vous trouverez. Ne vous inquiétez pas, on vous fait confiance, cher Éric. Deux candidates que tout ou presque opposent, Valérie Ayer, donc pour Renaissance, je le disais, face à Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, en ligne de mire, bien sûr, ce 9 juin prochain et les élections européennes. Débat, je vous le disais, instructif, passionnant, entre deux visions totalement opposées de l'Europe. On a vécu ça donc pendant une heure autour de Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. On va débriefer tout cela ensemble, entendre beaucoup d'extraits à noter donc de cette heure passée sur l'antenne de CNews. Ce QR code également, parce que vous aussi, vous allez réagir sur l'antenne de CNews. Vous prenez votre petit smartphone, comme on dit, vous scannez tout cela et vous pouvez nous envoyer une vidéo et répondre à cette question. Qui des deux candidates vous a le plus convaincu? Les extraits les plus pertinents seront diffusés à l'antenne. On réagira sur ce que nous disent les téléspectateurs de CNews. Je voulais commencer avec un échange qui symbolise peut-être ces deux visions vraiment diamétralement opposées de l'Europe. Quelle est la principale menace qui pèse sur la France, qui pèse sur notre continent? Question posée donc par nos deux animatrices tout à l'heure. La Russie ou l'islamisme? Écoutez les réponses de Marion Maréchal et de Madame donc Valérie Ayer.
Il faut expliquer aux Français aujourd'hui quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la stabilité de l'Union européenne. Aujourd'hui, la menace de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, elle est réelle. Il nous attaque aussi. Il attaque aussi notre modèle. C'est la déstabilisation, des manipulations d'informations, des attaques cyber sur des hôpitaux. C'est les fameuses étoiles juives qui ont été taguées au lendemain des attaques du 7 octobre pour déstabiliser, créer de la division au sein de notre pays. Donc la menace russe, elle est présente, elle est réelle. Il ne faut pas la sous-estimer, il faut être en soutien de nos amis ukrainiens.
Je considère aujourd'hui que la menace existentielle pour notre pays, c'est d'une part en effet l'islamisme et la submersion migratoire que vous contestez, vous d'ailleurs, Madame Ayer, j'ai vu dans le JDD hier. Donc c'est en effet le grand remplacement et c'est donc la disparition de la civilisation française et européenne, en tout cas la menace de disparition à lèvres à travers votre politique
Poutine migratoire. Poutine n'est pas un danger pour nous.
Et d'ailleurs, je constate que d'une certaine manière, même le président de la République hiérarchise, puisqu'il dit qu'il est prêt à travailler avec Vladimir Poutine pour lutter justement contre la menace djihadiste. Donc a priori, il a fait une forme de hiérarchie. Je ne considère pas aujourd'hui, bien sûr, que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, c'est évident, et nous souhaitons, et je souhaite d'ailleurs, que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté, et j'ai fermement condamné, bien sûr, cette violation du droit international et des frontières, mais je ne crois pas aujourd'hui que la France soit menacée dans ses frontières physiques par la Russie. Voilà, ça me paraît inexact de le dire.
Deux réponses, deux visions, et je voulais vraiment qu'on commence avec cette première question sur l'Ukraine, ou plutôt la menace russe ou islamiste, parce qu'on a vraiment là les deux visions qui s'affrontent. C'est intéressant ces duels, parce qu'on voit vraiment chacun peut imprimer ses idées, on est très loin de ces débats à 8, 9, 10 candidats les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier échange? Et puis, question subsidiaire, si je puis me permettre, qui sort vainqueur de ce duel selon vous?
Sortir vainqueur, je vous dirais ma perception des choses. Mais ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, d'ailleurs, si vous m'aviez demandé avant pour qui Marion Maréchal va-t-elle prendre parti ou montrer que c'est ce qu'il y a de plus important entre l'islamisme et la guerre en Ukraine, je pense que je ne me serais pas trompé. Je vous aurais dit Marion Maréchal, ça va être plutôt être la question migratoire et la vague islamiste. Et puis, sans doute que Mme Hayé, ça sera plutôt la Russie et l'Ukraine. Mais pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que tout est déclinable dans cette émission très intéressante autour des deux sillons, des deux têtes de liste candidates aux européennes. Vous avez d'un côté une Europe des nations, une Europe qui doit s'exprimer au travers de nations, puis vous avez à côté une Europe fédérale. Pourquoi est-ce que la Russie est plus importante pour Mme Hayé, même si au quotidien, je pense que les Français souffrent plus, nonobstant la souffrance du peuple ukrainien, mais les Français souffrent plus d'attentats, de proviseurs qui renoncent à leur statut de professeurs menacés, d'élèves tués, que de la Russie. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, Mme Hayé, elle est sur cette Europe souveraine. En fait, la Russie a attaqué l'Ukraine et la réponse est européenne, donc fédérale. Elle est exactement dans le sillon des fédéralistes. Elle est exactement dans le sillon du président Macron qui dit, en fait, la souveraineté, elle est européenne. Et face à la souveraineté européenne, vous avez la Russie qui menace cette souveraineté européenne. Et puis vous avez Marion Maréchal.
Allez-y, pardon.
Marion Maréchal qui, elle, au contraire, j'allais dire, fait du vécu quotidien des Français. Et la montée de l'islam. Et qu'est-ce qui peut répondre si ce n'est une nation qui reprendrait en main son destin sans sortir de l'Europe? Donc vous avez l'Europe fédérale, la Russie c'est le plus important, la guerre en Ukraine, puis vous avez l'Europe des nations. Ben, ce qui m'intéresse...
Il faudra d'ailleurs se demander dans un second temps, parce qu'on va d'abord s'intéresser à la forme. C'est intéressant.
Ça vous paraît clair ce que j'ai dit?
C'est très clair, c'est très clair. Mais ce qui ressort de cette analyse, et qui va poser question, cher Eric, ce qui va poser question pendant cette campagne pour Marion Maréchal, c'est comment se distinguer du programme que donnera le Rassemblement National, notamment, évidemment. Sur la forme, avant de revenir, on a le temps d'aborder toutes ces questions de fond. Pourquoi pas revenir sur cette première échange, si vous le souhaitez. Mais sur la forme, avant d'aller encore plus sur le fond, on connaissait Yon Uzay, l'expérience relative, l'expérience tout court, on va dire, de Marion Maréchal dans ce type d'exercice, le débat politique, télévisé. Madame Hayé arrivait un petit peu plus, on va le dire, en position de challenger de ce point de vue. Comment avez-vous perçu les deux candidates ce soir? Et même question à laquelle chacun est soumise, hein. Qui, selon vous, a remporté ce débat?
Bon, je crois que Valérie Hayé a un peu subi ce débat en réalité. C'est vrai qu'elle était plus souvent dans la défensive que dans l'offensive. Elle a surtout répondu aux questions de Marion Maréchal, elle a surtout défendu un bilan, même s'il est parfois difficilement défendable, me semble-t-il, comme sur la sécurité ou comme sur l'immigration. Elle a tenté de le faire. Elle n'a pas reconnu certaines erreurs. Elle était vraiment sur la défensive. Encore une fois, il ne me semble pas qu'elle ait porté de coups à Marion Maréchal, par exemple. Marion Maréchal en a porté un certain nombre et, encore une fois, elle n'a fait que répondre. Mais pour revenir sur l'échange qu'on a entendu, je crois que c'est un problème, et même un gros problème, quand on est candidat, à quelque élection que ce soit, par ailleurs, de ne pas pouvoir dire que le principal problème dans ce pays, ce qui menace ce pays, c'est l'islamisme. Ne pas être capable de prononcer ces mots-là, de reconnaître un fait qui est reconnu par tout le monde, en réalité. L'islamisme menace directement notre pays. La Russie menace la France d'une manière différente, mais le principal danger dans ce pays, c'est l'islamisme. Ne pas être capable de dire cela lors d'un débat télévisé, quand on est tête de liste pour une élection européenne ou autre, ça me semble être... très, très, très problématique.
Tatiana Renard-Barzac, je dis juste à nos téléspectateurs que nous suivons nos deux débattrices du soir à leur sortie de l'immeuble de CNews. Et on va être en direct dans un instant avec Valérie Hayé et Marion Maréchal. Ah, ben, je crois, Mickaël, vous êtes déjà en direct donc avec Madame Hayé. Eh ben, écoutez, allez-y, petit débrief de ce qu'elle a, de la façon dont elle a vécu ce duel face à Marion Maréchal.
Effectivement, Julien, on va pouvoir lui poser la question puisque Valérie Hayé nous a rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Hayé. Vous venez de sortir de ce face-à-face. Première réaction, comme ça, à chaud. Qu'est-ce que vous retenez de ce duel?
Bon, j'espère que c'était intéressant pour les spectateurs. Vision contre vision, on a effectivement deux projets très différents, deux visions très différentes de ce que doit être l'Union européenne. Moi, je suis dans le camp de l'action sur l'Ukraine, sur la protection de nos agriculteurs, sur les grands enjeux géopolitiques du moment. Et on a pu voir les divergences majeures qu'il y a entre Marion Maréchal-Le Pen et moi-même.
qui dit face à face dit aussi forcément deux candidats, deux visions différentes. Est-ce que vous considérez avoir remporté ce face à face?
Je laisserai les commentateurs estimer qui a remporté ou pas. La question, c'est vraiment, et j'espère que c'est le cas, c'est qu'on a pu voir deux visions du projet européen. Quand on parle d'Ukraine, quand on parle d'agriculture, quand on parle de migration, quand on parle d'enjeux économiques, on a deux visions totalement différentes. Et ce seront les électeurs qui trancheront.
Alors, si vous me le permettez, il y a des questions qui me viennent tout droit du plateau. Donc on va pouvoir me poser la question et je vais pouvoir vous la transmettre. Julien, je vous écoute. Allez-y.
Oui, c'est Yohann Usaï du service politique qui a une question pour la candidate Yohann. Renaissance.
Oui, parce que j'ai eu l'impression, moi, que Valérie Hayer avait davantage subi ce débat, qu'elle était plutôt dans la défensive. Est-ce qu'elle a l'impression, elle, précisément, de l'avoir subi, ou au contraire, est-ce qu'elle estime qu'elle a porté des coups à Marion Maréchal?
Alors, Yohann Usaï, donc du service politique, journaliste de CNews, qui nous dit, est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir parfois subi dans ce débat, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez la sensation d'avoir réussi à porter des coups à Marion Maréchal?
Dans ce débat-là, je pense qu'on a chacune exposé une vision, parfois en attaque, entre guillemets, et c'est le jeu du débat pour que chacun des électeurs et des spectateurs puisse se faire une idée sur notre vision, sur notre capacité à mener un débat chacune.
Donc vous n'avez pas subi?
Non, j'ai pas subi, absolument pas.
D'autres questions peut-être, Julien? Allez-y.
Non, mais écoutez, on est. Non, mais écoutez, oui. Si Madame Hayer estime ne pas avoir subi, oui. Je pense que les téléspectateurs l'ont perçu autrement. Peut-être. Alors, Éric Revel, un petit mot, et puis on libérera Madame Hayer.
Oui, Madame Hayer, on avait l'impression que vous étiez vraiment dans le sillon du président de la République. C'est-à-dire que vous défendez la souveraineté européenne, vous parlez jamais de souveraineté nationale. Je me trompe, peut-être.
Alors Éric Revel, qui est également en plateau avec nous ce soir, qui nous dit, est-ce que vous défendez donc la vision du président, qui est donc la souveraineté? Quel a été votre sentiment par rapport à cette vision de la souveraineté nationale? Est-ce que vous la défendez? Vous avez eu la sensation de l'avoir défendue ce soir en plateau?
Je n'oppose pas souveraineté nationale et souveraineté européenne. Je défends la souveraineté nationale parce que je défends la souveraineté européenne. Les deux s'imbriquent. Et dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr que si on veut être plus fort en tant que Français, eh bien, il faut être plus fort en Européen.
Voilà les réactions de Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux élections européennes, qui était avec nous. Et je vous laisse donc débriefer les paroles de Valérie Hayer en plateau.
Merci beaucoup, cher Mickaël. On est bien nourri. Ce débat, plus d'une heure. Madame Hayer et certainement Madame Maréchal, qui va venir s'exprimer également en direct dans un instant. Le tour de table se poursuit, chère Tatiana. À l'aune peut-être de ce qui vient d'être dit également, votre sentiment sur ce débat, qui l'a emporté?
Je pense que clairement, Valérie était plus à l'aise sur les thématiques vraiment européennes, qui sont, voilà, il faut rappeler quand même qu'elle a été à la tête du groupe Renew. Jusqu'à là, la passation de pouvoir avec Stéphane Séjourné. Il faut rappeler qu'elle siège dans l'hémicycle européen depuis de longues années, depuis 2019 très exactement. Et donc évidemment, elle était meilleure sur les thématiques de souveraineté européenne, de l'Europe de la défense, d'agriculture, puisque je rappelle aussi que c'est une petite fille et une fille d'agriculteur. Et elle était moins bonne sur les thématiques de l'actualité aujourd'hui nationale, mais qui sont aussi une actualité en fait européenne et même mondiale, et notamment la question de l'ultra-violence de la jeunesse, parce que à ne pas qualifier les choses, à être incapable de qualifier ces choses-là. Et malheureusement, c'est un peu le cas aujourd'hui du président de la République et un peu moins de Gabriel Attal, mais c'était un peu le débat ces derniers jours. Ne pas être capable de mettre des mots sur les mots MAUX est un souci dans ce genre de débat. Et c'est vrai que Marion Maréchal était beaucoup plus offensive. C'est son terrain de prédilection. Et à la fois, on voit là aussi autre chose qui dessine. C'est-à-dire que c'est vrai que Emmanuel Macron a décidé de faire sa campagne vraiment sur une dramatisation de certains enjeux européens, notamment sur la guerre en Ukraine, pour Marion Maréchal, et plus sur des thématiques nationales.
Mais c'est vrai que la forme compte, Tatiana. Et on a eu cette impression, d'ailleurs, sans trahir grand-chose, j'ai regardé le débat avec Yohann Usaï, et on s'est dit, c'est vrai que Marion Maréchal a beaucoup invectivé Madame Hayer, lui posant directement des questions. Là où Valérie Hayer a donné cette impression de subir et d'être moins, oui, comme Yohann l'a encore rappelé tout à l'heure, moins dans l'invective, moins dans l'offensive.
Julien, dans des débats comme ça, assez courts, hein, d'une heure, en fait, il y a tellement de thématiques.
C'est vrai que ça passe vite.
Les punchlines font la différence. Et c'est vrai que la force aussi de Marion Maréchal sont des phrases qui restent, notamment « Vous jouez à la guerre comme on joue au Playmobil ». Voilà, elle a eu beaucoup de punchlines. Et c'est vrai qu'en une phrase, en fait, parfois, elle a un peu compliquer la tâche, on va dire, à son opposante politique ce soir.
Florian Tardif. Pour résumer ce qui s'est passé, premièrement sur la forme, par rapport aux toutes premières minutes de ce débat, ce qui était intéressant de noter, c'est que c'est Valérie Ayer qui répond aux premières questions de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk, et elle s'adresse aux deux présentatrices, alors que lorsque on pose une première question à Marion Maréchal, elle s'adresse directement, en quelque sorte, à son adversaire du soir, qui est Valérie Ayer. Donc je rejoins ce qui a été dit effectivement par Johan Usaï. On a plutôt semblé, en regardant ce débat, voir une Valérie Ayer qui subissait le débat, alors que Marion Maréchal était beaucoup plus dans l'offensive. Ça, c'est plutôt sur la forme. Ensuite, après, il faut le dire aussi, Marion Maréchal, c'est un peu une professionnelle de la profession. C'est-à-dire qu'elle est tout de même habituée à ces débats en
plateau. Elle est rompue à l'exercice.
Et ça, elle est rompue à l'exercice. Et ça, on l'a noté. C'est-à-dire que Valérie Ayer, c'était presque un diesel. C'est-à-dire que les premières réponses étaient un peu poussives. Et il faut attendre finalement les dernières questions autour de la lutte contre l'immigration pour commencer à avoir peut-être une candidate un peu plus offensive vis-à-vis de son adversaire du soir. Et ensuite, sur le fond, oui, on a très clairement deux candidates qui sont opposées quasiment sur tout. Mais ce qui est intéressant pour répondre à votre deuxième question, c'est que je pense que paradoxalement, même si effectivement on regarde le débat et on prend un petit peu de recul, on pourrait dire que Marion Maréchal a été supérieure pendant cette heure-ci, je pense qu'elles ont toutes les deux gagné. Car ce sont des meilleurs ennemis. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quelle était la volonté de Valérie Ayer en débattant ce soir face à Marion Maréchal, à ce que Marion Maréchal ne soit pas si mauvaise que ça, soit même plutôt forte. Pourquoi ? Parce que quelle est sa volonté ? C'est de tenter de faire baisser Jordan Bardella, qui ne débattait pas ce soir. Donc montrer une Marion Maréchal forte sur les thématiques qui sont les mêmes que celles abordées par Jordan Bardella, espère-t-on dans le camp de Valérie Ayer, pourrait faire baisser dans les sondages le candidat du Rassemblement National. Donc il ne fallait pas non plus, de la part de Valérie Ayer, être trop offensive, je pense, ce soir, parce que la tactique derrière...
D'ailleurs, c'est un point commun de Valérie Ayer et de Marion Maréchal, c'est la volonté d'affaiblir le Rassemblement National.
Et Marion Maréchal avait exactement la même tactique de l'autre part.
Évidemment. D'ailleurs, regardez, avant d'entendre trois grands extraits sur trois grandes thématiques qui opposent véritablement les candidates, l'agriculture, la sécurité, l'immigration, ce sondage CNews qui nous éclaire un petit peu sur les forces en présence en ce 8 avril, donc on est à deux mois, quasi jour pour jour du scrutin. Les intentions de vote pour les élections européennes, sondage Opinionway pour CNews, vous voyez que, alors il n'y a pas les chiffres qui s'affichent, les amis, ce serait peut-être plus simple, mais en tout cas, ne serait-ce qu'avec ces couleurs, on peut avoir un petit problème technique, mais déjà les codes couleurs, enfin les barres couleurs, si je puis dire, nous permettent de comprendre que le Rassemblement National est en tête.
29% pour le Rassemblement National, Renaissance 19%. Parti socialiste 12%, je vous donne dans l'ordre, hein. LR 8%, Reconquête 7%, les écologistes 7%, LFI 7% et le PC 2%.
Et pour le moment, donc cet ennemi commun, on le comprend, c'est le Rassemblement National qui additionne tous les mécontentements, Tatiana, avant de passer sur les questions de fond qui ont divisé les deux candidats du soir.
Ce qui est compliqué, je pense, là, si je reviens au débat et que je fais un focus sur ce sondage, c'est parce que, en fait, Valérie Ayer, ce qui était compliqué pour elle, c'est que le RN, on peut...
Alors Tatiana, pardon, Marion Maréchal est en place avec Mickaël Dos Santos. On reprend le fil de cette conversation tout de suite. Marion Maréchal avec Mickaël, on vous écoute, cher Mickaël.
Oui, après Valérie Ayer, c'est donc Marion Maréchal qui nous a rejoint après ce face-à-face qui s'est terminé maintenant il y a quelques minutes. Marion Maréchal, bonsoir, merci d'être avec nous encore en direct d'ailleurs sur CNews. Vous faites des heures supplémentaires, exactement, mais c'est un plaisir en tout cas de vous avoir ici avec nous. Dites-nous, comment s'est déroulé ce face-à-face? Quelle est votre réaction à chaud? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris le dessus sur votre adversaire du soir?
Je sais pas, c'est toujours très compliqué à dire quand on a la tête dans le guidon du débat, donc je suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en est de ce point de vue-là. Jugeront ceux qui ont vu le débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un contraste de vision, je pense, assez saisissant, avec une femme qui aujourd'hui considère qu'il n'y a pas de submersion migratoire en Europe, qui défend une armée européenne, qui a une vision de l'écologie, qui est celle finalement peu ou prou des écologistes et du fanatisme écologique. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, en tout cas, les électeurs ce soir ont deux projets radicalement différents et seront entre quoi choisir et quoi choisir le 9 juin prochain.
Vous avez quand même la sensation d'avoir pris le dessus ou pas ?
Franchement, je ne sais pas.
Non.
Honnêtement, je ne sais pas, parce que quand on est dans le débat, on a quand même à la fois, évidemment, la pression et puis il arrive que la parole soit coupée, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et puis voilà, on est dans le jeu et dans le vif, donc c'est compliqué de prendre du recul, donc il faudrait que je regarde ça après coup, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a en effet, je reste un peu sur ma faim, pour être honnête, parce que j'ai posé des questions très concrètes, et il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a un lien entre insécurité et immigration, par exemple, pas de réponse, pourquoi vous laissez des mosquées radicales encore ouvertes sur le territoire, ou des écoles proches des frères musulmans encore ouvertes sur le territoire, pas de réponse, donc il y a une volonté de s'échapper à chaque fois, et là je suis un peu frustrée de ce point de vue là.
Alors vous le savez peut-être, la soirée se prolonge sur CNews puisqu'on débriefe en ce moment même ce face-à-face et Julien est donc avec ses experts en plateau. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Marion Maréchal? Je sais que vous en avez forcément.
Une ou deux petites questions avant de libérer Marion Maréchal pour pas qu'elle ne fasse trop d'heures supplémentaires sur CNews. Éric Revel, un petit mot.
Marion Maréchal, bonsoir. Vous avez parlé de l'immigration, qui est un thème évidemment important dans les sondages, les préoccupations des Français. Mais vous n'avez pas parlé du pouvoir d'achat qui demeure la première préoccupation des Français. Or, la grande idée de génie politique, si j'ose dire, de Marine Le Pen pendant les présidentielles, c'était précisément d'avoir parlé du pouvoir d'achat.
Alors, juste avant de poser la question à Marion Maréchal, sachez que c'est un peu frustrant pour elle puisqu'elle n'a pas le retour et donc elle ne sait pas forcément ce qui se dit en plateau. Alors, forcément, la question, quand elle est un peu longue, elle se dit qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste une question très très simple. Éric Revel, qui est avec nous ce soir, nous dit qu'effectivement, vous n'avez pas évoqué la question du pouvoir d'achat en plateau. Est-ce que c'est un regret ce soir?
Alors, pas tout à fait. En réalité, ça ne faisait pas partie des thèmes, mais j'y suis venue à un moment donné lorsqu'il s'agissait de dire que il faut à un moment donné faire en sorte que le travail paye correctement dans ce pays et donc de rapprocher le salaire net du salaire brut et donc de baisser les charges sociales sur les salaires et de ce point de vue-là donc faire des économies, mot qui n'existe pas dans le langage macroniste, sur notamment les dérives de l'assistanat et l'immigration. Mais étonnamment, elle n'a pas du tout embrayé lorsque je suis allée sur le sujet, peut-être parce qu'elle ne voulait pas trop parler de son bilan économique. Voilà.
Vous allez faire encore quelques minutes supplémentaires, pas des heures supplémentaires, mais quelques minutes supplémentaires parce qu'il y a encore d'autres questions en plateau.
Allez, une dernière question de Tatiana Renard-Barzac en plateau.
Oui, Valérie Ayé a affirmé ce soir que dans 2 ans, il n'y aurait plus de Lampedusa. Est-ce que Marion Maréchal va en faire un argument de campagne d'ici le 9 juin? Parce que ça, c'est vrai que ça semble un peu compliqué à tenir comme promesse.
Alors, je n'ai pas entendu qui posait la question, mais j'ai entendu la question et c'est l'essentiel. On me dit... Alors, je n'ai toujours pas entendu, mais ce n'est pas grave. On va poser la question à Marion Maréchal. Marion, Lampedusa, est-ce que pour vous, ça va être un thème, un sujet que vous allez aborder pendant cette campagne? Valérie Ayé nous disait que dans 2 ans, il n'y aurait plus de Lampedusa. Est-ce que pour vous, ça va être un argument sur lequel vous allez baser votre campagne?
Oui, d'ailleurs, j'ai rappelé que Mme Ayé, qui faisait la promesse qu'il n'y aurait plus de Lampedusa dans 2 ans, faisait partie du même gouvernement qui avait promis qu'il y aurait 100% d'application des OQTF sur le territoire français. Et après 7 ans au pouvoir, c'est 7% de taux d'exécution des OQTF. Donc je crois que ce gouvernement aujourd'hui n'est pas légitime, malheureusement, pour pouvoir porter un discours crédible sur la question de l'immigration, puisqu'ils ont le record absolu d'immigration légale et illégale. Et ce que j'ai essayé d'expliquer et de démontrer, c'est que leur fameux pacte d'immigration qui souhaite répartir les migrants partout en Europe ne peut pas et ne sera pas la solution. Donc je crains que Mme Ayé mente en disant cela. C'est de la communication une fois de plus. Et j'ai essayé du coup de développer des propositions, le financement des hotspots à l'étranger, le blocus naval européen, la réforme du droit d'asile, le Schengen réservé aux Européens. Et sur tous ces sujets, elle n'est manifestement pas du tout d'accord. Voilà. Mais elle considère qu'il n'y a pas de problème avec la subversion migratoire. Donc en fait, elle est cohérente avec elle-même. Elle l'a dit hier dans le JDD, il n'y a pas de problème avec l'immigration, il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a pas de lien entre insécurité et immigration. Donc à partir de là, pourquoi voudrait-elle réguler ou diminuer cette immigration? Elle considère que c'est la seule solution aujourd'hui à la baisse de la démographie et au problème des métiers en tension. Grand désaccord entre nous une fois de plus.
Eh bien, merci beaucoup Marion Maréchal. Et cette fois-ci, c'est bon, on vous libère. Dodo, exactement, on vous libère. Et en plateau, je vous laisse débriefer, bien évidemment, les réponses de Marion Maréchal.
Merci beaucoup, cher Mickaël. Tatiana Renard-Barzac, donc, qui posait cette question à Marion Maréchal. Une réaction. En fait, Johan aussi. On va entendre juste après Tatiana. Non, je vous laisse répondre. Je dis juste qu'on va entendre cet échange qu'elles ont eu en plateau sur l'immigration dans quelques secondes. Je dis ça pour la régie.
Je rebondissais en fait sur ce qu'a dit ce soir Valérie Ayé, en effet, en faisant une promesse un peu étrange qui était que dans 2 ans, on n'aurait plus de Lampedusa. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question de est-ce que Marion Maréchal va du coup utiliser cet argument pour faire campagne à ce sujet, puisqu'on sait que c'est un de ses chevaux de bataille. Mais cela dit, la vraie question, c'est ça. C'est en fait le pacte migration. on sait que ça pose une vraie problématique. Pour nos téléspectateurs et pour nos auditeurs, il faut quand même expliquer ce que c'est. Non, d'ailleurs, que nos téléspectateurs ce soir. Il faut expliquer ce que c'est. Ce pacte, en fait, il impose un principe, un mécanisme de solidarité entre les États européens, avec les États du Sud, qui sont ceux qui réceptionnent évidemment le plus les migrants, la Grèce, l'Italie, évidemment, l'Espagne.
Les États qui bordent la Méditerranée.
Les autres États, les autres pays qui ne réceptionnent pas directement ces migrants. Et donc, il y a ce mécanisme de solidarité qui fait que tous ceux qui vont refuser un certain quota qui leur sera alloué, vont devoir payer une amende qui sera de 20 000, je crois, 20 000,
oui, 20 000, 20 000, par
20 000 euros par demandeur d'asile refusé par un État. Évidemment, c'est très décrié. Cela dit, ce n'est pas la seule chose de ce pacte migration, ce n'est pas le seul volet. Il y a aussi un contrôle accru aux frontières, ce que d'ailleurs Valérie Hayer a commencé à détailler, expliquer ce soir. Cela dit, je pense que ce qui manquait ce soir dans le débat, du côté de Valérie Hayer, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que l'Europe est très compliquée.
C'est ça.
Les Français.
Elle a paru très technique.
C'est-à-dire, par exemple, le pacte immigration, je pense que personne ne sait ce que c'est si on ne l'explique pas. Et donc, les Français ne sont pas toujours au fait de la pédagogie. En fait, il faut faire la pédagogie sur l'Europe. Et autant Marion Maréchal ce soir a été très concrète, avec des choses très concrètes, en le ramenant d'ailleurs au quotidien à chaque fois des Français, avec des problématiques qu'on vit même ces dernières heures, ces derniers jours en France. Et autant Valérie Hayer, elle. Comme elle est évidemment, elle était eurodéputée, etc., elle est plus sur.
C'est qu'il y a ce côté, voilà. Peut-être, ce que disait, je crois, Eric en introduction tout à l'heure, ce côté très technique, très bruxellois, entre guillemets, de Valérie Hayer, et ce côté un peu plus ancré dans le réel, les pieds dans le cambouis, là encore, pour parler trivialement, de Marion Maréchal.
Une partie des Français se détournent de l'Europe, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir les changements.
Et c'est important que ces débats également. C'est pour ça que ces débats sont intéressants et passionnants, et surtout en face à face, parce qu'il y a vraiment le temps de s'imprégner des différentes préoccupations. Cet échange tout à l'heure sur l'immigration, Johan, vous reprenez.
On n'a plus de Lampedusa, on n'a plus de jungle de Calais.
On n'a plus de Lampedusa.
On peut dire que dans deux ans, on n'a plus de Lampedusa. Oui, parce qu'on a apporté des réponses concrètes avec des centres, des accueils. En réalité. Pardon ?
On aura réparti les migrants qui seront arrivés.
Mais non, parce qu'en fait, on filtre.
Mais
on
qui aura... filtre ? Qui filtre ?
Eh bien, les centres qui seront dans les centres qui seront
mis en place. Qui les tient ? Qui les gère ?
Mais c'est piloté par l'Union européenne et par les pays frontaliers, évidemment. Et donc, est-ce que les migrants ont vocation ou pas à rester sur le territoire européen ? Si oui, ils peuvent rester. On sait où ils sont. Sinon, ils sont renvoyés immédiatement.
Déjà, Madame Hayer, qui nous promet que dans deux ans il n'y aura pas de Lampedusa, fait partie du même gouvernement qui nous avait affirmé il y a quelques années qu'ils appliqueraient 100% des OQTF. Voilà. Et quelques années après, on est à 7%.
Et demain, on aura plus de problèmes. Il n'y aura plus d'immigration irrégulière, elle sera régulière.
Je considère que nous sommes très loin avec ce texte de répondre à la situation, puisqu'il n'y a jamais eu, je rappelle quand même, autant d'immigration clandestine aux frontières européennes. Et d'ailleurs, vous détenez, vous, avec votre gouvernement, le record historique d'immigration, à la fois légale et illégale, sur le sol français. Mais ça, on y reviendra peut-être. Donc, pas sûr que vous soyez très bien placé pour aujourd'hui mener cette politique.
Yann Uzaï, il y a un mois, Valérie Hayer avait refusé de dire qu'il y avait trop d'immigration dans notre, ou pas d'ailleurs, dans notre pays. Est-ce qu'elle était plus claire aujourd'hui ?
Oui, elle avait refusé de répondre à la question, effectivement, interrogée sur le fait de savoir s'il y avait trop d'immigration dans le pays. Elle n'avait pas voulu répondre. Et là, elle nous dit, dans deux ans, il n'y aura plus d'immigration irrégulière.
Bon, c'est vrai, assez surprenant. C'est peut-être la prise de parole la plus surprenante de la soirée.
C'est complètement illusoire de penser ça. Je pense qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle disait au moment où elle a prononcé ces mots, parce que ça n'est pas possible autrement. Ce en quoi je rejoins...
Là, c'est un procès en amateurisme que je ne veux pas lui faire, et j'ose espérer qu'elle se base... J'ose espérer qu'elle se base sur quelque chose d'un petit peu plus concret, Johan.
Comment peut-on considérer que l'Europe... qui n'a pas réussi à résoudre les problèmes migratoires depuis des années, si ce n'est des décennies, en deux ans, va subitement, du jour au lendemain...
Sur quoi peut-être se baser pour dire quelque chose d'aussi énorme ?
Zéro. Je n'y crois pas une seule seconde. Et Marion Maréchal, quelque part, a raison quand elle dit « Comment peut-on faire confiance à Emmanuel Macron, qui est le président de la République, qui a accueilli le plus d'immigrés illégaux ?» Depuis qu'il est au pouvoir, c'est un peu comme quand Bruno Le Maire dit « J'ai augmenté la dette de 900 milliards en 7 ans, si vous voulez maintenant, c'est moi qui vais la désendetter ». C'est très difficile de donner du crédit quand on a un bilan, si vous voulez. Et là, le bilan, que ce soit en termes économiques ou que ce soit en termes d'immigration, il est quand même très mauvais pour le pouvoir en place. Donc, sur ces paroles-là, moi, je les prendrai avec beaucoup, beaucoup de précautions et j'attends de voir ce qu'elle dira dans les prochains jours.
Encore une fois, deux candidates que tout oppose, Eric. Peut-être qu'on peut qualifier Mme Hayer d'immigrationniste quand Mme Maréchal dit tout le contraire.
Oui, le point de vue de Johan sur la fin de Lampedusa est très intéressant, mais moi, je n'ai pas compris la même chose. Alors, je vais vous expliquer.
Compris sur quoi elle se basait pour affirmer que dans deux ans, Lampedusa serait fermée.
Je vais dire ce que j'ai compris. Quand elle dit dans deux ans, il n'y a plus de Lampedusa. En fait, Lampedusa,
c'est un
centre de rétention à ciel ouvert. Dès l'instant où le pacte migration et asile sera mis en place, ça veut dire que Mme Hayer fait le pari que tous les États vont se rendre à Canossa et vont accueillir leur pourcentage d'immigrés qui sont dans ces poches de rétention qui s'appellent Lampedusa.
Ou... Ça, c'est dans le monde merveilleux qui n'existait pas, ça.
Ce qu'elle veut dire, c'est pas qu'il n'y a plus d'immigration illégale, à mon avis, dans deux ans.
Elle le dit mot pour mot, il n'y aura plus d'immigration illégale.
Enfin, bon, là, si elle dit ça, évidemment, elle se plante complètement.
Mais elle l'a dit.
Lampedusa, c'est pas impossible que ça disparaisse en tant que tel. Parce que si vous répartissez tous les quotas qui sont retenus en Italie aujourd'hui et que chaque pays, ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui, mais qu'ils seront dans l'obligation. Et c'est pas l'amende de 20 000 euros par migrant qui fera peur aux États. Vous savez, c'est cette espèce de loi SRU pour les migrants qu'on répartira en Europe. Là, c'est pareil, c'est une vision. Mais d'une certaine manière, quand vous écoutez le maire d'Orléans, Serge Grouard, on commence déjà à répartir les migrants ou ceux qui sont en errance.
Pour les JO. Mais
oui, alors pour les JO, oui, très bien. Mais attendez, c'est une forme de test.
Pour 3 mois.
C'est une forme de test. Oui. Au bout de 3 mois, vous allez demander à ces migrants de revenir à Paris? Non, c'est pas possible. Donc en fait, si ce pacte
de droit Grouard va leur demander, lui, hein.
Asile est appliqué,
cela dit,
eh bien peut-être que les Lampedusa disparaîtront, mais ça posera d'autres problèmes.
Mais c'est quoi l'approche rationnelle?
Bah, l'approche rationnelle, je vais vous dire, c'est donner les moyens de lutter efficacement contre une immigration illégale. Donner les moyens. Quand vous signez un pacte avec la Tunisie et que vous financez le fait qu'il retiendrait les migrants qui voudraient ou partir de Tunisie ou venir de pays limitrophes pour pouvoir migrer et traverser à leurs risques et périls de la Méditerranée, on n'est quand même pas naïf au point de penser qu'on ne vérifie pas que l'argent qu'on donne est bien utilisé. Mmh. Vous voyez, et il y a plein de sujets. On ne va pas refaire les interrogations sur les ONG, sur les passeurs. Non, mais tout ça est un business en réalité.
Non, mais le problème, c'est qu'elle ne voit que l'une des deux faces de la problématique qui est l'immigration. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une facette de cette problématique qui est la lutte contre l'immigration illégale. Il y a un dévoiement du droit d'asile qui devient en quelque sorte une voie légale pour une immigration illégale. Alors certes, on peut comprendre cette partie-là de sa réponse et qui ne peut se résoudre qu'au niveau européen. Ça, on l'a assez bien compris. Sauf que le problème, c'est que même si on résout cette problématique-là, les gens vont vouloir continuer à tenter de traverser la mer Méditerranée sans passer par ces hotspots qui pourraient être créés effectivement par l'Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une attractivité de ces pays-là. On en a parlé, Marion Maréchal en a parlé à un moment donné, il me semble, notamment ces différentes aides qui sont proposées et qu'espèrent justement ces migrants qui tentent de traverser la mer Méditerranée. Donc il y a un problème au niveau européen, mais il y a également un problème au niveau national. Effectivement, Valérie Ayer, de ce point de vue-là, n'en a pas parlé.
Il était question d'immigration, il était question de sécurité. Alors la sécurité qui est une compétence nationale, mais par extension, on s'est posé la question pendant ce débat d'une Europe de la défense, une sécurité européenne. Est-ce que c'est possible, là encore, la vision de chacune des candidates?
Vous dire qu'au début, quand on est arrivé au Parlement européen, on était un peu isolé quand on disait qu'il fallait qu'on accélère sur l'Europe de la défense. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapés et nos partenaires maintenant acceptent l'idée qu'il faille qu'on accélère sur l'Europe de la défense. Et véritablement, ça veut dire avoir une véritable industrie de l'armement sur le sol européen, y compris sur le sol français.
Je réponds là-dessus parce qu'on a parlé tout à l'heure. Je crois même que vous êtes pour la mise en place d'une armée européenne, hein, si je ne me trompe pas, j'ai cru. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'on sache exactement de quoi on parle, parce que je crois que vous êtes également, j'en suis même sûre, pour la fin de l'unanimité en Europe, c'est-à-dire la fin du droit de veto potentiel d'un pays. Donc ça veut dire que si on cumule ces deux propositions, demain, des soldats français pourraient être envoyés en guerre sur un terrain extérieur sans l'accord de la France. Voilà. Je veux bien qu'on comprenne de quoi on parle. Je suis
Il y a déjà de la coordination aujourd'hui et des équipes qui travaillent ensemble. Ça existe déjà.
Mais sauf qu'aujourd'hui, aucun soldat français, madame, n'est envoyé sur un territoire étranger en guerre sans l'aval de la France. Voilà. Et ne met sa vie de son jeu. Parce que quand on envoie un soldat, si vous voulez, jouer sa vie sur un théâtre d'opération, c'est pour défendre les intérêts français.
Avantage Marie Maréchal ou pas?
Oui, me semble-t-il. Encore une fois, sur ce terrain-là, je trouve qu'elle a plutôt été plus convaincante que Valérie Ayer, même si elles ont toutes les deux des positions qui sont évidemment très radicalement différentes. Mais Valérie Ayer, encore une fois, je trouve qu'elle a eu du mal à exposer véritablement la vision qui est la sienne. Sur la défense, il y a des désaccords qui sont flagrants. Sur la sécurité, il y a des désaccords aussi. Mais encore une fois, Valérie Ayer, sur la sécurité, la question
Ayer.
Est posée.
Ayer. Il faut que d'ici le 9 juin, on prononce tous correctement son nom.
Sur la question de la sécurité, interrogée, on lui dit, est-ce que vous considérez qu'il y a un problème d'ensauvagement en France? C'est un mot qui a été utilisé par Gérald Darmanin. C'est un mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron. L'exécutif n'a aucun problème à utiliser ce mot-là. Et bien ce soir, elle n'a pas voulu le reprendre à son compte.
On entendra cet extrait quand on parlera de Viry Châtillon dans un tout petit quart d'heure.
C'est quand même intéressant parce qu'elle a quand même des prises de position qui se démarquent de celles du président ou du ministre de l'Intérieur. Elle refuse de dire qu'il y a trop d'immigration alors même que l'exécutif le dit volontairement. Elle refuse de parler d'ensauvagement de la France alors même que l'exécutif le fait très volontairement. Donc elle a, avec ces sujets-là, une position très surprenante et encore une fois assez problématique à mon sens.
Tatiana Renard-Barzac, qu'est-ce que Valérie Ayé, sur ces questions de sécurité, marche un petit peu sur la pointe des pieds?
Non, je pense que là, pour le coup, c'est son terrain de prédilection. Elle a essayé, mais je pense sans succès malheureusement, d'aller débusquer Marion Maréchal parce que son angle d'attaque, en fait, c'était d'abord, ça a toujours été sa position, c'est-à-dire de dire on est pro-ukrainien, il faut continuer la livraison d'armes, il faut une défense européenne. Rassurante à la fois parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais eu cette temporisation-là dans le discours de l'élargissement de l'Union européenne en disant oui, l'Ukraine va adhérer, mais pas tout de suite, et non d'ailleurs à la Turquie. Mais cela dit, en essayant de montrer les positions en fait pro-russes de Marion Maréchal, parce qu'en fait c'est ça l'angle d'attaque aujourd'hui de son parti, c'est de montrer aussi les ambiguïtés de certains candidats et de certains députés vis-à-vis de Vladimir Poutine. Elle a essayé de le faire, mais sans grand succès au final, parce que comme en fait elle apporte pas de choses concrètes à chaque fois, avec juste quelques exemples qui sont pas très concrets, du coup ça ne démonte pas les arguments. Et encore une fois, les punchlines de Marion Maréchal étaient là. Voilà, et c'est vrai que en fait, ce qui reste de ce débat,
c'est l'expérience aussi.
Voilà, on fait pas la guerre comme on joue au Playmobil. C'est l'instrumentalisation, la guerre dans cette campagne. Et la solidarité, ce n'est pas un suicide. Donc c'est vrai qu'en fait, malheureusement, ce sont ces phrases-là qui restent. Le reste, on connaissait déjà de toute façon.
Elle a le sens de la dépêche
à ce sujet,
Madame Maréchal. Bah,
elle est plus entraînée, comme vous le disiez.
Allez, un dernier mot là-dessus, et puis on entendra le dernier extrait sur l'agriculture avant de parler de tout autre sujet.
Elle est gênée aux entournures de parler d'immigration ou de sécurité, parce qu'en fait, elle a une liste qui est en train de lui mordre les mollets, qu'elle a de Raphaël Glucksmann. Mmh. Et en fait, pour ne pas écœurer, enfin, pour essayer...
C'est vrai qu'elle regarde devant elle et dans son rétroviseur, Madame Ayé.
Évidemment, donc pour ne pas perdre une partie du vote de gauche qui vote pour la liste de Madame Ayé, les Renaissances de gauche, ou les Horizons de gauche, ou les Modems de gauche, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, elle est obligée de tenir un discours qui ne les effraiera
pas. Mais discours.
C'est pour ça qu'elle fait ça. On sent bien.
Mais une grande partie des angles gauches dans ce pays pensent qu'il y a trop d'immigration. Ça n'est pas réservé uniquement aux électeurs de droite.
Oui, mais quand même, Raphaël Glucksmann, il a des positions beaucoup plus tièdes. Donc Mme Ayé, à mon avis, elle fait une erreur. Elle essaie de s'aligner sur cette position-là pour pas continuer à se faire siphonner l'électorat, une partie de son électorat.
C'était d'ailleurs le discours de la gauche dans les années 90.
Bien sûr.
Non mais... Dernier extrait sur l'agriculture. C'est vrai qu'on a rarement autant parlé de questions européennes que pendant le pic de la crise agricole. Écoutez cet échange.
C'était tangible.
C'est le processus, il est démocratique. L'Europe, elle est démocratique. Et on travaille ensemble à 27. Alors, on ne gagne pas sur tout, bien évidemment, parce que c'est ça aussi la logique du compromis. Mais on sait fixer nos lignes rouges, nos priorités.
Elle ne se défausse pas, pour le coup, à Cordeliersa. Elle fait partie de la majorité d'Ursula von der Leyen. Elle co-gouverne aujourd'hui avec le groupe des LR au PPE, avec les socialistes. Et ils suivent d'ailleurs l'agenda, en réalité, des écologistes. Donc, le pacte vert, en effet, c'est
l'agenda
leur
des écologistes, pas du tout.
C'est
l'agenda qu'on a fixé en 2019, en
l'idéologie à l'œuvre du fanatisme écologique, avec des objectifs complètement délirants qui aboutissent, comme je vous le disais, à l'appauvrissement et à la
décroissance. Donc vous considérez que le changement climatique n'a pas du tout d'impact sur la production de nos agriculteurs.
Qu'à un moment donné,
allez voir les agriculteurs dans le sud de la France qui, eux, subissent tous les jours l'effet du changement climatique.
Madame, on a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. Donc en l'occurrence, le bilan, c'est celui-ci, c'est le vôtre. Depuis 2000, les importations ont explosé. Elles ont doublé. Nous n'avons jamais été aussi dépendants des denrées étrangères. Notre balance commerciale agricole est déficitaire hors vin et spiritueux de près de 8 milliards d'euros. Donc quand vous me dites qu'on est aux côtés des agriculteurs, moi je veux bien que vous soyez dans une espèce de déclaration d'autosatisfaction, mais excusez-moi de vous dire que ce n'est pas le sentiment qu'ils ont.
Commentaire Florian Tardif.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, les Français voient concrètement... l'application dans leur vie quotidienne des décisions qui sont votées au Parlement européen.
Exactement.
On a beaucoup notamment critiqué ces différentes normes qui sont votées, même cette surtransposition des normes au niveau national. Mais par contre, moi, ce qui me gêne dans ces différents débats, c'est qu'à chaque fois et assez régulièrement, on en vient à la critique des traités. Pourquoi pas, on peut critiquer les traités de libre-échange, mais à un moment, il faudra que les différents députés européens, et je l'espère, s'assoient autour de la table, car les Français, eux, ce qu'ils voient, alors certes, parfois sur les étals, on peut voir des kiwis ou du bœuf qui vient de je ne sais quel pays, mais ce qu'ils voient surtout, c'est une concurrence au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que durant ces débats, on parle toujours de la concurrence à l'extérieur des frontières européennes, sauf que le vrai débat et ce qui pénalise aujourd'hui une large partie d'ailleurs de nos agriculteurs, et d'ailleurs c'est ce qu'ils dénoncent notamment et peut-être plus particulièrement dans le sud du pays, tout simplement parce que la frontière avec l'Espagne, avec le Portugal ou encore avec l'Italie est bien plus proche, c'est cette concurrence parfois déloyale avec des pays qui sont pourtant au sein de l'Union européenne.
Tatiana, si vous pouvez faire un tout petit peu moins long que Florian, ce serait magnifique.
Très rapide. C'est vrai que la crise agricole qu'on a vécue en France, mais que beaucoup de pays européens ont vécu, a fait que Bruxelles est quand même revenue sur certaines ambitions environnementales. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'en fait, on fait une sorte de renoncement en fait en matière de transition climatique, écologique, et est-ce que en fait, souvenez-vous, il y a eu cette interdiction justement des produits phytosanitaires, il y a eu aussi cette mise en pause des jachères, il y a eu aussi ce recul sur les importations ukrainiennes de poulet, de sucre, notamment parce que c'était une concurrence déloyale. Mais le problème, c'est qu'en fait, le principe édicté par le président de la République n'était pas d'interdiction sans solution. Aujourd'hui, est revenu un peu en fait en boomerang, si j'ose dire, dans ce débat dans le visage de Valérie Ayé, parce que Marion Maréchal, pour le coup, a mis le doigt justement sur cette contradiction au sujet de l'interdiction des produits phytosanitaires. Donc c'est vrai que ce débat-là, à mon sens, n'a pas apporté grand-chose en fait aux téléspectateurs ce soir.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce débrief du débat entre Valérie Ayé et Marion Maréchal. On reprendra cette discussion aux alentours de 23h30 avec téléspectateurs qui nous rejoindront. Je rappelle également que vous avez ce QR code. Hein, si vous voulez donner votre avis et répondre à cette question, qui vous a le plus convaincu lors de ce débat entre les deux candidates Renaissance, Reconquête sur CNews? On reparlera de cet échange parfois musclé donc entre les deux femmes tout à l'heure à 23h30. On va réentendre, si vous n'avez pas vu encore là, ce débat, les deux conclusions des deux candidates pour la fin de ce débat donc animé par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Et puis on va se retrouver. Je vais remercier Florian Tardif qui est en matinale demain.
En matinale.
Eh bien allez vous coucher Florian, repos bien mérité. On vous retrouve demain avec Romain Desarbres. On va accueillir d'autres invités, d'autres membres de l'équipe CNews pour tirer le fil de l'actualité qui nous emmènera bien évidemment également à Viry-Châtillon avec ses obsèques, les obsèques de Chemseddine qui auront lieu demain. Beaucoup d'éléments à discuter et on parlera surtout dans un instant de la sécurité des Jeux Olympiques. Gérald Darmanin donne une grande interview à paraître demain matin dans les colonnes d'aujourd'hui en France Le Parisien. On en sait un petit peu plus sur le dispositif et cette cérémonie d'ouverture qui sera donc maintenue coûte que coûte pour Gérald Darmanin. Les conclusions des deux candidates, on se retrouve tout de suite.
Je pense que ce soir, nous aurons vu ce qui sépare la majorité présidentielle de l'extrême droite aujourd'hui. Madame Marion Maréchal Le Pen vote contre le pacte asile-immigration. En tout cas, ses alliés français voteront contre le pacte asile-immigration. Moi, j'assume de voter pour ce pacte, pour trouver une réponse aux défis migratoires à l'échelle européenne. Madame Marion Maréchal Le Pen remet en question le dérèglement climatique. Moi, j'assume que nous devons lutter et accompagner les agriculteurs pour lutter contre le changement climatique. Madame Marion Maréchal Le Pen estime que la France doit être isolée. Moi, j'assume que c'est en européen que nous devons se créer les conditions d'être compétitifs dans le jeu mondial et pour faire rayonner nos entreprises et nos agricultures. Donc, en fait, vous pensez que cette élection européenne ne sert à rien. Moi, je pense que cette élection européenne, elle est utile parce que c'est en européen qu'on va régler le problème migratoire, la question de la transition environnementale, la régulation des géants du numérique encore et créer les conditions d'être une vraie puissance économique à l'échelle européenne. Donc, nous avons besoin d'Europe.
La conclusion à présent pour Marion Maréchal.
Je ne vais pas répondre à cette litanie d'éléments de langage. Je vais simplement vous dire une chose, c'est que le 9 juin prochain, vous avez la possibilité de battre Emmanuel Macron au Parlement européen. Parce que ça, et Madame Ayé, vous ne me le contesterez pas, s'il y a un groupe aujourd'hui qui peut battre le vôtre au Parlement européen, c'est le groupe auquel j'appartiens, c'est le groupe des conservateurs et réformistes européens. Non seulement, évidemment, pour dépasser votre groupe et donc faire en sorte de casser la majorité d'Ursula von der Leyen, pour pouvoir avoir une Europe non plus gouvernée au centre et à gauche, comme c'est le cas aujourd'hui avec vous, mais véritablement à droite pour défendre notre civilisation. Et donc, ce n'est pas les LR qui peuvent vous offrir ça, parce que les LR aujourd'hui gouvernent avec vous au Parlement européen. Ce n'est pas malheureusement non plus le RN, parce qu'aujourd'hui, ils sont isolés au Parlement européen. C'est bien aujourd'hui Reconquête. Et donc, le 9 juin prochain, je ne peux qu'inviter ceux qui souhaitent véritablement changer cette Union européenne, de saisir cette opportunité historique et de voter pour notre liste afin de battre Emmanuel Macron.
Et on reprendra la conversation aux alentours de 23h30 pour continuer de débriefer ce débat. Je salue Karima Brik qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir cher Karima, évidemment de la rédaction de CNews. Jonathan Sixou prend part à la conversation également. Bonsoir cher Jonathan, journaliste. Amaury Bucco, Chacun remarquera le nouveau détail hein, sur le visage d'Amaury Bucco. On va dire sans pas... commentaire, Amaury. Allez, on passe là-dessus, on n'en parle pas. Merci, cher Amaury, d'être là. Et on va revenir très sérieusement sur l'affaire de Viry-Châtillon, notamment ensemble dans quelques instants. Mais avant de marquer une courte pause, il nous reste 5-6 minutes. Je voudrais juste que vous découvriez avec nous ce que dit Gérald Darmanin dans les colonnes du Parisien à paraître demain. Le ministre de l'Intérieur qui veut rassurer les Français et qui détaille dans cette interview donc le périmètre de sécurité déployé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, la manière dont les forces de l'ordre vont préparer l'événement également, parmi les questions qui sont posées au ministre. Dans l'état actuel des choses, referiez-vous la même cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain ? Il ne va pas répondre non, hein, évidemment. Le terrorisme, dit-il, peut toucher tout le monde à tout instant et paradoxalement, à partir du moment où ils sont très sécurisés, les grands événements sont sans doute parmi les endroits les plus sûrs, ceux où il y aura le moins de possibilités de passer à l'acte, même s'il faut bien sûr rester humble devant le danger. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée de maintenir cette cérémonie en bord de scène. Du reste, le terrorisme arrive souvent là où on ne l'attend pas. Vous venez d'arriver, tiens, Jonathan Sexou, première réaction. C'est de la méthode Coué de la part de Gérald Darmanin. En même temps, c'est pas faux. Ce qu'il dit, plus un événement est sécurisé, plus on en parle, plus on évoque le risque, moins les terroristes s'y risquent, si je puis dire.
Jusqu'au jour où le contraire arrive.
Jusqu'au jour où le contraire arrive. Question stupide, réponse intelligente.
Non, enfin, ce serait très, je ne sais pas quoi vous dire. Pour contredire ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur ou ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est évidemment que vous pouvez évidemment affirmer qu'un événement va avoir lieu et qu'il n'y aura pas de problème. Et peut-être, et nous le souhaitons tous, qu'il n'y en ait pas. Et s'il y en a...
Ce qui est intéressant, c'est que dans ce message, il montre qu'il ne recule absolument pas devant le terrorisme. Oui. Et c'est le signal à envoyer aux Français.
Mais les terroristes, nous, et c'est ça peut-être le plus important, c'est que ils nous ont toujours prouvé que eux-mêmes ne reculaient devant rien dès lors qu'ils voulaient passer à l'acte. C'est donc, si vous voulez, il y a un moment où il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Et rappelez-vous, en 2015, les abords du Stade de France ont été visés. Il y a eu des blessés et des morts également dans cette vaste opération des attentats de Paris. C'était un grand événement, certes sécurisé. Ça aurait pu être pire, mais il y a quand même eu des victimes ce soir-là.
Éric Revel.
Alors, je vais vous dire, comme j'ai un petit peu de mémoire, je pense que Gérald Darmanin et le président de la République, sur la cérémonie d'ouverture, jouent au chat et la souris. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a...
Gérald Darmanin et Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin, il y a quelques mois, avait émis quelques réserves dans la foulée de ce qu'avait dit Alain Boer, d'ailleurs, en disant, attention...
Ce serait criminel.
Alors, le ministre de l'Intérieur n'a pas été jusque-là, mais en disant, oui, il faut s'assurer...
Alain Boer est allé jusque-là.
Il faut s'assurer qu'on puisse avoir une cérémonie d'ouverture qui se passe bien sur la scène. Or, depuis, le président de la République, il y a une semaine, a dit... Évidemment, on ne change pas notre fusil d'épaule, on conserve, mais on peut imaginer des solutions, des plans B. Or, du coup, Darmanin, en fait, le prend à son propre piège. C'est-à-dire qu'en fait, que dit Gérald Darmanin ? Il dit non, mais on va assurer le truc et on va faire cette cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire qu'il est plus catégorique que le président de la République, alors que l'idée de cette cérémonie sur la scène, c'est celle du président de la République. Et pardonnez-moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans tout ça, même si c'est un peu de la... politique, politicienne, un Gérald Darmanin qui veut se montrer plus ferme, plus décidé qu'un président de la République qui a dit, regardez bien cette déclaration, il y a une semaine, ça sera sur la scène, mais si ce n'était pas le cas, on aurait des plans B.
Oui, alors il rappelle qu'il y a des alternatives, mais qu'il ne veut pas s'y résoudre pour le moment. Hein. J'invite tout le monde à lire cette longue interview. On lui pose également cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de pays inscrits au CIO qu'à l'ONU, hein. Vous avez 205 délégations qui vont défiler sur la scène et qui participent tout simplement à ces Jeux Olympiques. Et on lui dit, est-ce que toutes les délégations ont accepté de venir et défileront ? Tout le monde, dit-il, défilera. C'est la preuve que nous travaillons en parfaite confiance avec le CIO. Aucune des 205 délégations ne refusent d'y participer, ni l'équipe américaine, ni israélienne, ni iranienne, ce qui montre qu'on les rassure sur la sécurisation. Par ailleurs, nous aurons 2500 policiers et gendarmes étrangers qui viendront nous aider, soit pour sécuriser les équipes, leurs équipes, soit pour arrêter des chiens anti-stupes, soit pour prêter des chiens anti-stupes, j'y arrive, pardon, anti-bombes ou anti-armes, soit pour discuter avec leurs compatriotes. Une cinquantaine de pays nous prêtera main forte. On aura des Américains, des Anglais, des Allemands. La plupart du temps, ils seront armés, Amaury.
Non, mais moi, ce que je vois dans ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il est le ministre de l'Intérieur.
Étonnant de voir des forces étrangères armées sur notre sol, c'est normal, ça?
Non, mais effectivement, vu le nombre de personnes qu'il y aura, je pense que même les policiers français qui l'ont dit, qui étaient à bout, etc., ils ont quand même fait des manifestations pour dire, mais en fait, quelque part, on nous exploite depuis tellement longtemps, il y a eu plein de manifestations, etc. Je pense que les policiers étrangers sont les bienvenus, et notamment pour aiguiller tous les touristes.
Parce que le ministre a rappelé qu'il annulait tous les congés d'été des policiers.
C'est probablement
qui
rendaient, pour rassurer les pays. C'est leur dire, voyez, on va prendre des gens de vos services, donc vous aurez en votre part dans ce système de sécurité. Et moi, juste pour revenir sur Gérald Darmanin, il est le ministre de l'Intérieur. Moi, si le ministre de l'Intérieur de mon pays disait « j'ai peur avec cette cérémonie,
évidemment,
on n'est pas à la hauteur »,
évidemment,
on serait les premiers à avoir peur. Et
évidemment,
son rôle,
le discours est assez convenu.
Là,
et
son rôle, c'est d'être un peu la personne carrée qui protège. Alors, et qui dit tout va bien se passer.
Je suis un petit peu embêté parce qu'il me reste 55 secondes et que tout le monde lève la main pour prendre la parole. Donc si vous le voulez bien, Karima et Tatiana, deux brèves interventions afin qu'on puisse envoyer la pub et se retrouver à 23h pile.
Oui, pour l'instant, on a l'impression que c'est la course, les Jeux olympiques de la sécurité. On a l'impression que c'est vraiment un test sécuritaire à ciel ouvert. C'est littéralement ça. Mais en même temps, on comprend qu'aujourd'hui, avec la technologie, oui, le risque est plus grand aujourd'hui. Il y a le fameux risque terroriste, particulièrement en France. Il y a ce contexte mondial, la guerre Israël-Hamas qui se passe en Ukraine avec la Russie. Il y a bien sûr les menaces du terrorisme islamiste. Donc, la France a quand même une particularité. Je pense qu'on peut se dire, évidemment, toutes les ressources. On voit même qu'on va chercher du renfort même à l'international au niveau sécuritaire. Il faut dire aussi que pour ce qui est de la sécurité, le renseignement est mis à contribution au maximum en ce moment. Je pense que tout le monde, tous les effectifs, les policiers, les gendarmes, les services de sécurité.
Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui sont donnés par le ministre dans le papier. Vous verrez que,
c'est
assez énorme ce qui est prévu.
C'est quand même énorme. Et après ça, ils ont revu toute la question des jauges aussi pour davantage sécuriser les choses. Donc, effectivement, si les délégations se mettaient à se retirer, ça verrait que ça ne passe pas.
Juste très rapidement, du coup, je vais être brève, une précision. Même les agents de sécurité, figurez-vous, qui vont être recrutés, on recrute même d'ailleurs auprès de retraités d'étudiants, pourront, certains d'entre eux, être armés sur décision du préfet de police de Paris.
Leurs profils sont très étudiés. Là encore, je n'ai pas montré l'extrait, mais Gérald Darmanin en parle. Les profils sont très filtrés.
Certains déjà fichés ont été écartés, d'ailleurs. Donc, bien sûr, il y a inscrit.
Plus de 1300 personnes écartées, d'ores et déjà, je crois. Il faudrait revoir l'article.
Six fichiers seulement écartés. Oui. Pas non plus créer une cible.
Non, mais beaucoup de profils qui peuvent inquiéter.
Oui, en tout cas,
le doute ne bénéficie pas aux personnes candidates. On marque une très courte pause et on revient sur cette actualité qui nous a tous marqué, le décès de ce gamin de 15 ans à Viry-Châtillon. Certains tuent pour un regard, d'autres lynchent à mort pour une conversation sur un téléphone portable. Voilà où nous en sommes dans notre société. On en parle longuement. À tout de suite. Mais nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci à tous de nous rejoindre en direct, sans interruption, jusqu'à minuit. On poursuit le débrief de l'actualité qui nous amènera bien tristement à Viry-Châtillon dans quelques secondes. Et puis, si vous n'étiez pas avec nous, on redébriefera également dans quelques minutes ce débat pour les européennes qui est lu en direct sur notre antenne entre Valérie Hayé et Marion Maréchal. 23h pile, Maureen Vidal d'abord pour un rapide rappel de l'essentiel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 7 départements en vigilance orange pour vague submersion demain après le passage tardif de la tempête Pyrique. Le Finistère, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais seront concernés. 5 autres départements seront placés en vigilance orange pour crue. Il s'agit de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Charente-Maritime, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. Les présidents français, égyptiens et le roi de Jordanie ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et une libération de tous les otages. Ils ont mis en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Gaza. Le Hamas, de son côté, examine une proposition en 3 étapes. La première prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines. Le pape François a rencontré les proches de plusieurs otages israéliens aujourd'hui. Selon eux, le souverain pontife aurait qualifié le Hamas de maléfique. 5 familles se sont entretenues avec le pape, un moment d'émotion avec les photos de leurs proches détenus par le Hamas. Hier au Vatican, le pape a réitéré son appel à la paix. Enfin, une éclipse totale a traversé les États-Unis et le Canada. Des millions de personnes se sont réunies pour admirer ce rare événement céleste. Les autorités américaines ont donné les consignes de sécurité, notamment le port nécessaire de lunettes spéciales pour regarder le soleil sous peine de graves lésions aux yeux. La NASA a diffusé une vidéo en direct avec des images de télescopes et des commentaires d'experts.
Eh oui. Le soleil avait rendez-vous avec la lune ce soir. Formidable. Eric Revel, Jonathan Sixou, Tatiana Ornarbar, Zakaria Mabrik, Yuanusa et Amaury Bucco, toujours présents autour de la table. Retour, comment ?
Quel
Charles
poète.
Trenet n'est pas là.
Non, Charles Trenet, bah, malheureusement. Malheureusement, le fou chantant nous regarde de tout là-haut. Retour à des actualités beaucoup plus sérieuses. Demain seront organisées les obsèques de Shemseddine. 4 agresseurs suspectés, 3 mineurs de 17 ans, un majeur de 20 ans font l'objet d'une enquête pour assassinat. Depuis dimanche, la jeune fille avec qui il échangeait, âgée de 15 ans, n'était pas présente au moment des faits. Elle a été mise en examen pour chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime. Comment un jeune de 15 ans a-t-il pu être lynché à mort à Viry-Châtillon, tout simplement pour parler à cet ado de 15 ans, ce qui a provoqué la colère de ses grands frères. L'indignation, elle est totale face à ce drame. On met à mort celui qui pourrait entacher la réputation d'une jeune femme et donc celle de sa famille. Retour sur les faits et les derniers développements avec Maxime Leguet. On en discute tous ensemble.
Les circonstances du drame se précisent. 3 jours après le décès de Shemseddine à Viry-Châtillon, 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat. 2 des mises en cause, un majeur de 20 ans et un mineur ont été écroués. 2 autres mineurs sont incarcérés avant un débat contradictoire mercredi. Parmi ces 4 personnes, il y a 2 frères d'une jeune fille de 15 ans. Elle discutait par message avec la victime sur des sujets relatifs à la sexualité. Le procureur d'Evry, Grégoire Dulin, donne des précisions.
Craignant pour sa réputation et celle de leur famille, ils avaient enjoint à plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Ils avaient ensuite appris que la victime se vantait de pouvoir librement parler avec leur sœur, n'ayant pas encore eu à subir de pression de leur part.
Jeudi après-midi, les 2 frères décident de se rendre devant le collège. Accompagnés de 2 autres individus, ils entraînent Shemseddine dans un hall d'immeuble à proximité. Avant de le frapper, il décédera le lendemain des suites de ses blessures. 3 des jeunes agresseurs présumés sont connus de la justice. Le majeur de 20 ans a été condamné en 2023 pour des faits de détention de stupéfiants. Son frère, âgé de 17 ans, pour des faits de violence commis en réunion. Un des autres mineurs de 17 ans a été reconnu coupable l'an dernier de faits de tentative d'extorsion.
Depuis quelques jours, le maire de Viry-Châtillon est extrêmement touché. Il était présent sur le plateau de Pascal Praud ce matin.
Moi, j'ai été touché par ce que je suis en train de vivre. Parce que, et encore, moi, c'est pas très très grave. Je le redis. Moi, je ne fais que vivre ça d'un petit peu loin. Mais très franchement, ça ne m'empêche pas, moi, de penser à la famille, de penser à cette gamine qui est de 11 ans, qui est en 6e, qui a perdu son frère, avec son frère, son autre frère, qui a lui aussi perdu son frère, cette maman qui a perdu son gamin. Le plus important maintenant, c'est justement de leur apporter leur soutien. Et puis peut-être que ce qui s'est passé va enfin peut-être faire réagir quelque chose.
D'après les déclarations du procureur, les meurtriers de Shemseddine l'auraient agressé parce que les contacts donc du garçon avec leur sœur faisaient craindre pour leur réputation et celle de leur famille. La piste d'un crime d'honneur, que je mets bien évidemment entre guillemets, et pour leur privilégier par les enquêteurs. C'est le Moyen-Âge en fait, Éric Revel. On est en Afghanistan ou on est en France ?
Oui, vous avez raison. Crime d'honneur, ça renvoie à ça. D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup de... Je pense à elle, parce que j'ai vu quelques réactions de néo-féministes qui sont montées au créneau en disant « Mais ce sont des visions patriarcales, vous comprenez ?» Je ne parle même pas du meurtre.
Ah, mais là, il n'y a rien de plus patriarcal, hein, pour
là,
le coup.
Là, il n'y a plus. Et puis, pardonnez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire, quand même ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a toujours existé, des frangins qui vont protéger la sœur qui va au bal, ou qui va... Ça a toujours existé. Mais ce que ça veut dire là, c'est que... Des voyous, parce que c'est les voyous, ils sont multi-condamnés, hein. Des voyous s'arrogent le droit de savoir ce qui est bien pour la sœur et ce qui est mal pour la sœur. C'est ça que ça veut dire. Alors je ne sais pas si ça renvoie au Moyen-Âge, mais ça renvoie à une conception de la liberté de la femme, fût-elle jeune. Ça renvoie à une conception de la mainmise de la hiérarchie de la famille qui n'est pas du tout celle que nous apprend la République ou dans laquelle on baignait jusqu'à présent. Donc là, il se passe quelque chose. Ce meurtre horrible nous en dit beaucoup, à mon avis, sur une certaine évolution, un certain logiciel qui se met en place, qui se développe, où les frangins ont la mainmise sur la sœur, sur ses fréquentations, et puis peut-être demain sur des signes ostentatoires qu'elle devra porter sur elle.
Si je puis me permettre, c'est pas seulement les frangins, c'est l'idéologie des frangins. C'est le côté, c'est une fille, elle n'a pas le droit de parler de sexualité. On parle juste de parler de sexualité, on ne parle bien même pas d'acte. Enfin, c'est ça qui est.
C'est deux gamins de 15 ans qui ont échangé des messages de leur âge, certainement.
C'est un mot générique, frangin, c'est un mot générique.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que le parquet a indiqué que le crime communautaire avait été mis de côté très rapidement, la piste communautaire, et en même temps qu'on est en train d'explorer pour savoir le degré de religiosité de la famille, pour savoir si
parce
finalement...
Parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette affaire.
Oui, mais à ce moment-là, il y a une dimension communautaire dans ce qui s'est passé. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi le parquet a dit que c'était...
D'ailleurs, le parquet, tiens, tant que vous avez la parole, Amaury, le parquet qui a choisi, donc, et on l'a dit et répété, de qualifier les faits d'assassinat, parce que la préméditation est clairement reconnue.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans son communiqué, le parquet explique que les mises en cause ont dit qu'ils s'étaient rendus fortuitement devant le collège, donc qu'il n'y avait rien de prémédité. L'un des avocats a d'ailleurs parlé de violence volontaire ayant entraîné la mort et non pas d'assassinat, mais le parquet, lui, a voulu retenir la qualificatif d'assassinat, qui est le qualificatif le plus grave, puisque ça, on encourt la perpétuité, et donc qui veut dire qu'il y aurait effectivement préméditation. Puisque ces personnes ont réagi. Alors, est-ce que ça veut dire que le parquet a des éléments qu'il n'a pas encore communiqués publiquement, soit parce que, par exemple, ils ont des messages de menaces de mort qui auraient été envoyés par les mises en cause à la victime, soit c'est parce que tout simplement le parquet, c'est quelque chose qui est très fréquent.
Est-ce qu'on sait, pardon de vous couper, Amaury, est-ce qu'on sait concrètement ce qu'échangeaient Shems Eddine et cette jeune fille?
Ben non.
Le fait qu'ils se discutaient, qu'ils avaient une relation épistolaire, un peu, donc des messages à caractère apparemment sexuel. Mais le contenu vraiment de ces messages, il n'est pas révélé pour le moment.
On ne sait pas.
D'accord. C'est pas une histoire, Jonathan Sixou, de pure violence à l'école. Là, c'est clanique, presque religieux, l'enquête le dira. C'est aussi une question de civilisation, de culture.
C'est plutôt un choc de civilisation, une guerre de civilisation. Le terme de crime d'honneur a été employé il y a quelques minutes. Ce matin, dans son interview télé, Mila a parlé de charia. Et nous en sommes là.
Que nous écouterons dans un instant.
C'est l'illustration, ça n'est que l'illustration de ces mots, de ces termes, malheureusement. Et force est de constater, ça peut paraître une banalité, mais ça n'en est pas une, que oui, ça n'est pas notre civilisation. Et que cette conception des rapports hommes-femmes, c'est même pas que la gamine ait été cornaquée par ses grands frères, ça va bien au-delà. C'est une conception par rapport à nos repères et par rapport à nos fondements civilisationnels, c'est une conception qui est totalement arriérée des rapports hommes-femmes. Ça fait des siècles et des siècles qu'en Europe, on ne se comporte plus comme ça.
Vous évoquiez Mila, cette jeune fille, pour rappel à nos téléspectateurs, harcelée, cyberharcelée depuis 2020 parce qu'elle avait critiqué l'islam sur ses réseaux sociaux et avait reçu des flopées de menaces et d'injures. Elle était l'invitée de nos confrères de BFM ce matin. La laïcité est morte et la police des mœurs est en train de dicter sa loi. Voici en substance qu'elle a pu dire ce matin. Écoutez.
On parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte. Au sein des établissements, moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées.
Une police des mœurs de la part des autres jeunes?
De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation. Qui se sentent mais en totale impunité. C'est déjà des groupes Snapchat de personnes mais qui se menacent, c'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes, ça s'arrête jamais.
Police des mœurs, les mots sont les bons, Karima. Et puis de l'autre côté de la table aussi.
Oui, je pense que oui, malheureusement. Malheureusement, parce que encore, ce qu'on constate en fait, et c'est pas la première fois qu'on constate ça, rappelez-vous, le terrible drame, il y avait eu Shaina, 15 ans, qui avait été brûlée vive et qui avait été poignardée par son ex-petit copain
Et d'ailleurs, bon, qui était très...
Alors, en l'occurrence, dans l'affaire de Shaïna, son frère l'a pleuré et dévasté et s'est battu pendant des années pour la réhabiliter. Et là, c'est pas pour le coup... C'est pas dans son entourage familial. Hein.
Non, c'est ça. Shaïna. Je parlais de son ex-petit copain, d'ailleurs.
C'est ça.
Voilà. Et justement, il y avait vraiment des insultes sur elle, de filles faciles et des choses comme ça. Donc, encore une fois, on s'approprie le corps des femmes. Hein. C'est un peu cette question-là. L'honneur repose sur l'appropriation du contrôle du corps des femmes, du contrôle de leur liberté, du contrôle de leur émancipation, du contrôle de comment elles se vêtissent. Et finalement, ben, c'est ça, on est vraiment dans ce contrôle. Et on voit aussi que sur le territoire français, on parlait de communautarisme, on parle d'islamisme radical, on parle de tendances vraiment extrêmement rétrogrades qui existent malheureusement sur le territoire. C'est pas généralisé, mais on voit quand même plusieurs exemples. Et on voit finalement qu'il y a des individus, des groupes qui décident finalement de s'extraire de notre état de droit, de notre justice, hein, de la justice en France, pour se faire une justice clanique, une justice archaïque sur le dos des femmes. Et c'est ce qu'on observe. Et peu importe, hein, que la discussion, on disait que finalement, le jeune garçon avait discuté avec la sœur et, bon, c'était à connotation sexuelle ou quoi que ce soit. Je veux dire que cette jeune fille-là, ou d'autres jeunes filles, si elles veulent fréquenter des jeunes garçons, si elles veulent parler, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que peu importe ce que c'est, il n'y a personne qui devrait avoir une sorte d'autorité sur les actions comme telles. Et si des parents ont à éduquer leurs enfants, c'est une chose, mais je pense que ce qu'on a assisté, c'est pas un crime d'honneur, c'est un crime de déshonneur, c'est un crime de la honte, c'est un assassinat, c'est barbare, et je pense vraiment que c'est pas juste de pleurer qui va faire la différence, mais ça va être d'agir.
Qu'est-ce que c'est, Tatiana Renard-Barzac, si c'est pas une forme de décivilisation certaine? En plus, elle a rappelé Karima Shaïna. On pourrait évoquer des exemples récents, alors sur d'autres détails. C'est pas isolé, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas isolé ce qui s'est passé.
Du cas de Samara à Montpellier il y a quelques jours. Le lien est toujours le même. Ça veut dire d'abord deux très jeunes laissés presque pour mort devant un établissement scolaire à la sortie d'une école.
Ouais.
Première chose. Deuxième chose, pour des mêmes raisons, c'est-à-dire une question en fait religieuse apparemment dans les deux cas. Et donc là, du coup, les propos de Mila ce matin font le lien entre ces deux cas. Parce que moi, je pense que c'est une erreur fatale d'utiliser le terme de crime d'honneur. C'est-à-dire que quelque part, en fait, on banalise cette expression qui n'a même pas lieu d'être chez nous dans notre pays.
Mais d'où elle sort, cette expression? Dans ce cas-là, qui l'a sortie? Ce sont les médias qui ont...
On en a fait.
On le qualifie de cette façon. C'est vrai, on est dans West Side Story quand on parle de crime d'honneur.
On est dans Roméo et Juliette.
Oui, mais
on est dans les...
Oui.
On est dans les horaces.
Et ça, c'était avant, Eric, pardon. On est aussi dans laver son honneur. Donc, en Iran, en Afghanistan, on est aussi, pardon.
Oui, sauf qu'on est en France.
Bien sûr. Et en fait, on est en France. Et du coup, ça pose en effet une vraie question sur la question des femmes. En fait, les femmes ne sont pas la propriété des hommes. On est dans un pays où ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, il faut qu'on explique aussi bien cela aux jeunes hommes aujourd'hui. Les femmes ne sont pas leur propriété. Les femmes n'ont pas à rester cachées chez elles, interdites de sortir, d'aller étudier, travailler. Nous ne sommes ni en Afghanistan, ni en Iran. Et ça, je pense qu'il va falloir le répéter. Troisième chose, dans ces deux cas, une hyper-violence, avec quelque part, quand même, dans ce cas de fratrie, ces deux frères, une démission quand même de la famille. Ce sont deux frères qui ont quand même des antécédents judiciaires. Comment ça se fait que dans cette famille, il y a déjà deux enfants qui ont des antécédents judiciaires et qui considèrent que c'est normal de venir frapper à mort, à main nue, à coups de pied et à coups de poing, un jeune garçon de 15 ans.
Je ne sais pas si c'est de la démission. Est-ce que les parents sont pas d'accord avec le fait de contrôler la...
Je ne sais pas. Je n'en sais rien.
Peut-être aussi.
Dernière chose, moi, ça me pose aussi question quand je vois, dans le cas justement de Viry Châtillon, cette jeune femme de 15 ans qui n'était pas présente, mais apparemment au courant. Et ça pose la même question en fait, pour tous les jeunes qui assistent malheureusement à ces déferlements de haine et qui n'interviennent pas.
Elle est prise peut-être entre la peur de sa famille.
Oui, mais ça pose quand même une vraie question, pardon, non-intervention.
Ah oui, mais elle est mise en examen.
Question aussi sur l'éducation de notre jeunesse, et on en viendra peut-être parce qu'il y a une question en effet de répression, et donc une question aussi de quelle peine pour ces jeunes-là, en cas de minorité notamment, mais aussi une question de prévention. Et je pense qu'apprendre le respect de l'autre, l'empathie et juste les valeurs républicaines, c'est juste la moindre des choses.
Alors je voudrais juste qu'on entende un dernier extrait de Mila ce matin, parce que dans cette affaire, et chacun l'a rappelé, il y a le sujet du contrôle de la vie, du contrôle du corps des femmes, tout simplement. Où sont les féministes?
Je n'ai eu aucun soutien de ces individus. J'ai même été jetée en pâture. D'ailleurs, j'aime pas quand on emploie le terme féministe à l'égard de ces nanas. C'est des nanas qui veulent la lumière.
Qui, vous parlez de qui, des féministes, des associations
féministes, donc les Nous Toutes et compagnie, toutes ces associations féministes de gauche qui, elles sont très fortes pour aller chouiner au patriarcat blanc, cisgenre, j'en sais rien, je comprends plus leurs termes. En revanche, pour aller dénoncer ce qui se passe en Iran, le patriarcat islamiste, qui est même, je dirais, majoritairement présent en France, c'est compliqué, ça serre les fesses et ça se barre en courant.
Difficile de contredire ce que dit cette jeune femme. Où sont les féministes qui parlent de patriarcat à longueur de journée? C'est vrai que ça pose le problème de la famille. Dans les familles où il y a des problèmes de violence, notamment sur les femmes, il y a une forme de reproduction. Et sans vouloir aller trop loin dans l'interprétation de cette affaire, en effet, on se dit qu'il y a des schémas culturels qui sont reproduits, notamment par ces jeunes agresseurs.
Bon, d'abord, ça fait longtemps que les féministes ont perdu toute crédibilité.
Certes.
Je crois que ça n'est.
Les néo-féministes.
Les néo-féministes, oui. Absolument.
Parce que les féministes restent Mila, crédibles
Mila,
et importantes.
Mila est féministe, je pense qu'on peut le dire.
Et donc, elles ont évidemment perdu toute crédibilité. Donc, je crois qu'il ne faut plus en faire un sujet. Et en tout cas, ne plus rien attendre d'elles, si ce n'est des provocations régulières, comme elles ont l'habitude de le faire depuis maintenant un certain temps. Vous avez tout à l'heure dit qu'on était là en plein processus de décivilisation.
Posez la question.
Oui, je ne partage pas tout à fait ce constat-là, parce qu'en l'occurrence, il me semble que c'était précisément la civilisation de ces jeunes frères. Eux n'ont pas épousé les lois de la République, ils n'ont pas épousé le mode de vie qui est le nôtre. Ils ont manifestement gardé ou souhaité un mode de vie qui serait fidèle, selon eux, à leur religion, ou je ne sais pas trop quoi, mais probablement
à
l'interprétation de leur religion, d'où découlent leurs valeurs. Et ce qui montre quand même, effectivement, vous avez parlé de Samara tout à l'heure, Tatiana, mais il me semble qu'on est aussi dans une radicalisation de plus importante d'une partie de cette jeunesse musulmane qui pratique l'islam, qui l'a peut-être pratiqué d'une manière modérée, mais qui est en train de se radicaliser de plus en plus sous l'influence peut-être, hein, c'est une hypothèse, mais des frères musulmans, des salafistes. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans cette radicalisation? Mais en tout cas, il y a une radicalisation qui est de plus en plus importante, et ça, en plus du problème islamiste terroriste qui est posé dans notre société, il est vrai que ça interroge et ça doit collectivement tous nous inquiéter.
Très important et très intéressant la lecture politique de ces événements. Le ministre de l'Intérieur a parlé il y a quelques mois, ou je ne saurais plus le dater exactement, en tout cas dans Sauvagement de la société. Est-ce que, à travers cette affaire, là encore, on peut parler d'une forme d'ensauvagement? Écoutez ce que dit la tête de liste La France Insoumise pour les Européennes, j'ai nommé Manon Aubry.
L'ensauvagement, ça veut tout et rien dire. Vous jetez en pâture l'ensemble de la jeunesse. C'est quoi le référence d'être des sauvages? C'est quoi des sauvageons? Moi,
c'est ceux qui tuent un adolescent à coups de poing et de pied.
Et ils seront punis pour ça.
Mais vous en êtes de nouveau, certains affirment que l'impunité nourrit cette violence barbare.
Et vous savez, plus un système est répressif, ça ne veut pas dire moins il y a de violence. Vous pouvez prendre le cas des États-Unis, où le système judiciaire est beaucoup plus répressif pour les jeunes. Vous pouvez enfermer des mineurs, etc. Et pourtant, c'est un des pays au monde où il y a le plus de violence parmi les jeunes.
C'est du déni ou du cynisme? Parce qu'un tel degré de violence, de sauvagerie, très honnêtement, je ne sais pas comment le nommer.
Non, mais c'était exactement, ce sont les deux termes, oui, c'est du déni, effectivement, et la façon dont LFI, et à travers la voix de Manon Aubry, s'exprime, c'est, si vous voulez, c'est la recette du succès de la décivilisation que dénoncent d'autres en même temps, quand on nous annonce des mises à mort aussi barbares que celles de ces ados ces derniers jours. C'est de l'irresponsabilité politique. LFI, c'est pas aujourd'hui qu'ils nous prouvent leur dangerosité, mais à ce point, sur de tels sujets, je n'aime pas l'expression, mais des sujets de société aussi profonds.
Et vous avez raison, ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société. Je trouve que le mot est plutôt bien choisi.
J'aurais aimé trouver une expression encore plus enracinée, si vous voulez, puisque là, on est vraiment au cœur des ressorts de la vie quotidienne de milliers de milliers de gens dans notre pays qui sont français comme vous et moi. Et c'est là où il y a un vrai problème. Juste un petit pont avec une autre info qui nous est tombée aujourd'hui. Ça n'a pas un lien direct.
L'autre Rix à Viry-Châtillon, c'est ça que vous voulez voler?
Aucun rapport, mais justement, mais
autant
pour parler...
Pour moi. Parce qu'il y a eu une autre Rix dans la même ville aujourd'hui qu'un garçon qui a été gravement touché. Heureusement, ces gens ne sont pas en danger.
C'est simplement pour faire un pont, pour tenter un pont sans avoir à le développer maintenant, mais pour peut-être essayer de trouver des explications à ce qui peut se passer dans la tête de ces six jeunes ados. Il y a une étude du CNL, du Centre National du Livre, qui est sortie dans le Figaro cet après-midi. Et qui montre quoi c'est effarant. C'est-à-dire que des 7 à 19 ans, entre 7 et 19 ans, et pour les plus âgés de cette tranche, vous passez 11 minutes par jour à lire et 5h10 devant un écran. C'est-à-dire que vous êtes totalement lobotomisé, pour faire simple. Dès lors que vous êtes totalement lobotomisé, comment voulez-vous qu'un adulte, quel qu'il soit, vous apprenne quelque chose pour aller dans un autre sens que ce que vous entendez à la maison du matin au soir ?
Ces déclarations, Eric, de Manon Aubry, c'est aussi, et Jonathan a commencé à le dire, hein, d'une certaine manière, c'est aussi la stratégie politique de LFI qui prépare aussi les générations à venir à cette haine de l'autorité.
Oui, ça c'est vrai, il y a ça dans le discours des gens de LFI, je trouve qu'elle commence sur une erreur monumentale, ensauvagement ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, dit-elle. Non, au contraire, l'ensauvagement ça veut tout dire, le mot qualifie bien la situation. D'ailleurs je rappelle que Jean-Pierre Chevènement avait parlé de sauvageon, alors ça avait déclenché des réactions à gauche à l'époque, mais enfin... Le terme est là. Mais ce qui est frappant quand même, et elle a raison de prendre cet exemple, c'est qu'aux États-Unis quand même, il y a une répression très très lourde contre les délinquants. Et je peux vous dire qu'un flic aux États-Unis, vous plaisantez pas du tout. Hein. Il doit pas y avoir beaucoup de refus de s'arrêter aux États-Unis. Hein. Le flic, alors on peut être pour ou on peut être contre, mais enfin vous ne rigolez pas avec un flic aux États-Unis. Et pourtant, la violence aux États-Unis est forte. Mais vous savez ce qui me frappe, c'est que la première fois qu'on a de nouveau réemployé le terme de décivilisation, c'est Emmanuel Macron qui l'a employé.
C'est vrai.
On lui avait dit, mais vous reprenez un terme de Renaud Camus, le mec d'extrême droite, là, vous n'avez pas le droit. Mais il avait réemployé ce mot.
C'est vrai.
Le processus de décivilisation. Et je vais vous dire, ça me fait penser à un mot de Julien Gracq, pardonnez-moi, c'est pas pour faire le malin, mais il disait en fait...
Peu, mais
non,
on vous parle.
Non, vous allez voir, il faut un point de fuite pour la société. C'est-à-dire, il faut un idéal. Eh bien, quand vous avez une société qui se délite comme elle se délite aujourd'hui, notamment dans cette voie de
décivilisation... Et qui n'est pas capable de répondre.
Eh bien, la société n'a plus de point de fuite... au propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'elle perd son idée.
Tout est dit dans ce chiffre que j'ai entendu aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez entendu également, en parlant des émeutiers de l'année dernière, de juin dernier, 0,5% des émeutiers interpellés sont allés en prison. CQFD. Évidemment, vous savez qu'à 21h tout à l'heure, Marion Maréchal et Valérie Ayer débattaient plutôt, et Laurence Ferrari et Sonia Brook ont posé aux deux candidats cette question, ce mot ensauvagement. Tiens, est-ce que vous le prendriez à votre compte ou pas? Écoutez les deux candidates.
Je pense qu'on gagnerait du temps à poser les véritables mots MOTS sur ce qui se passe à l'école, et ces mots, ils sont de deux ordres. D'une part, l'école est victime collatérale, si je puis dire, de l'ensauvagement général de la société, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être, dû à un cadre, selon moi, à la fois de laxisme judiciaire et de destruction de l'autorité de l'État, et un autre mot qui est celui de la gangrène islamiste.
Je vois, je fais le constat d'une hyperviolence, parfois, de la société, parfois de nos jeunes également, qui peut être accentuée sur les réseaux sociaux. On a vu notamment le cyberharcèlement, le harcèlement, et donc on a agi aussi pour réguler les réseaux sociaux. Et clairement, il faut qu'on accompagne nos jeunes.
Johan, sur les réponses de ces deux candidates notamment.
Encore une fois, je vous dis, moi, je suis surpris que la candidate de Renaissance ne reprenne pas ce terme à son compte. Enfin, encore une fois...
La perche a été tendue, pourtant. Hein.
Elle a été tendue, elle a été retendue. Enfin, si vous voulez, si elle ne le fait pas, c'est vraiment qu'elle ne veut pas le faire et donc qu'elle ne partage pas ce constat. Alors même, encore une fois, qu'il est partagé par, disons, l'ensemble de l'exécutif, y compris le président de la République a prononcé ce mot-là. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et pourtant, elle refuse. Donc, c'est une véritable prise de position politique. Écoutez, manifestement, on ne partage pas le même constat. Pour revenir sur Manon Aubry, si vous voulez, la solution qui consiste... Vous avez Aymeric Caron, de la France Insoumise, par exemple, qui a redit aujourd'hui comment faire baisser l'insécurité. La question lui a été posée. Il a dit, mais c'est très simple. Pour faire baisser la sécurité, il y a une solution très efficace, faire baisser la pauvreté. C'est précisément ce qu'a essayé de faire Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Il s'est dit, je ne vais pas m'attaquer directement au problème d'insécurité, je vais m'attaquer au chômage. Parce que si le chômage baisse, ça fera mécaniquement reculer l'insécurité. Le chômage a baissé et l'insécurité sécurité n'a fait que progresser. Il avait d'ailleurs dit à cette époque qu'il avait été naïf. Ça lui a valu très cher lors de l'élection présidentielle de 2002. Et c'est précisément l'erreur qui est en train de refaire la gauche, c'est-à-dire que considérer que quand on est plus pauvre que les autres, on est sujet à plus de violence. C'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça.
Alors qu'est-ce qu'on a raté ?
C'est une vieille lune de la gauche. Ça n'est pas du tout lié à la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres. Il y a des départements en France qui sont très pauvres. La Creuse, je crois, est le département le plus pauvre de France. Il ne me semble pas qu'il y ait plus de violence que cela dans la Creuse, voyez-vous. Donc, faire le lien entre les deux, c'est quelque chose qui est faux et c'est une manière de se voiler
pas,
la face.
C'est peut-être pas faux, mais c'est en partie vrai. Et peut-être qu'il y a d'autres éléments, en effet,
je crois que ça joue vraiment très très peu dans la délinquance et la criminalité.
Tatiana, qu'est-ce qui se passe alors dans la tête de ces enfants? C'est quoi l'exposition aux écrans qui semble être un peu l'alpha et l'oméga de l'ultraviolence en ce moment, les carences éducatives? Qu'est-ce qu'on a raté, comme je le disais il y a 5 secondes?
Je lisais l'interview d'un pédopsychiatre qui avait cette phrase assez flippante, si j'ose dire, mais en fait...
Boris Berger, peut-être?
Non, qui disait, en fait, on a les ados qu'on mérite. Et en fait, les adolescents sont le reflet de la société dans laquelle ils vivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de l'ultra-violence. C'est, malheureusement, cette violence, elle est extrêmement bien répartie. Il suffit de voir ce qui s'est passé lors des dernières émeutes, il suffit de voir ce qui s'est passé lors des gilets jaunes. Enfin, il y a quand même une violence qui monte dans cette société, et avec une jeunesse, en effet, qui est en prise, en effet, aussi via les écrans. Et c'est vrai qu'il y a un système de mimétisme et une émulation de la violence sur les réseaux sociaux, ça, on ne peut pas le nier, mais malheureusement, tout ne part pas de là non plus. Donc on ne peut pas non plus se réfugier derrière son petit banc en disant c'est la faute aux réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. En revanche, je pense qu'il y a plusieurs maillons de responsabilité et on ne peut pas se décharger en pensant que les profs ou les policiers vont faire l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, si on revient à la base, juste à la base de l'éducation, les parents ont l'entière responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Et donc en fait, tout commence d'abord dans les familles. Ça part ensuite dans les écoles. Et ça a l'air un peu bisounours dit comme ça, mais cela dit, ce qui se passe au Danemark ou en Finlande, les cours d'empathie, qui d'ailleurs ont débuté là en France, non mais je vais quand même développer deux secondes, qui ont débuté en France, apprendre juste le respect de l'autre, juste avoir de l'empathie pour l'autre et pouvoir intervenir quand l'autre se fait avoir des jeux de rôle avec la victime.
Alors vous avez raison, Tatiana, mais ça peut marcher avec les élèves qui aujourd'hui sont en maternelle et qui vont grandir. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont 15 ans aujourd'hui ?
Non, c'est pas ça. Oui, mais vous êtes que sécurité répressive. Oui, il y a un volet évidemment
répressif. Non, je demande juste ce qu'on fait avec ceux qui sont en voie d'être de perdition.
Le problème, c'est que vous pouvez mettre tous les jeunes du monde en prison, pour les mettre dans les internats, pour les mettre dans les centres d'éducation fermés. Ça ne réglera pas le problème de l'éducation.
C'est pas ce que disent d'autres grands psychiatres comme Maurice Berger, par exemple.
Il y a deux jambes. Il y a une jambe répressive et il y a une jambe préventive. Et de l'autre côté, pardon, dernière chose très rapidement, c'est vrai aussi que là, on est quand même face à une sorte de vide intersidéral parce qu'Emmanuel Macron a timidement qualifié ce qui s'est passé ces derniers jours de violence désinhibée chez les ados. Bon, bah, c'est un peu tiède, en fait, si vous voulez, pour qualifier quand même la réalité de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et quand on voit les mesures proposées, on avait quand même un discours très ferme de la part de Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, disant « tu défies l'autorité, tu apprends à la respecter ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit il y a quelques jours? Là, il y a deux jours, bah, en fait, il faut des conseils de discipline dès le primaire.
Oui, alors on va y venir.
Voilà.
On y vient.
En fait, ce que je veux dire, c'est entre le constat, la réalité aujourd'hui de ce qui se passe dans la société, du sentiment d'insécurité des Français, 86% des Français considèrent que la France est de plus en plus violente, et les mesures apportées par le politique, il y a évidemment une anxiété qui n'a pas de réponse.
Cécile Chavot est professeure de français, elle connaît cette réalité, elle en parlait sur le plateau de CNews tout à l'heure.
On déplore de plus en plus de faits de violence dans la cour de récré, mais ils ne réalisent pas, c'est-à-dire qu'ils se battent et quand on leur demande d'arrêter, pour eux c'est pour rire, c'est une normalité. Certains parents sont responsables, moi je déteste la généralisation et j'essaie justement de me battre contre ça devant mes élèves. Donc les parents qui sont responsables, très bien. Je pense qu'aussi l'école est responsable parce qu'elle ne punit plus. Et je pense que la société entière a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire quelque chose, les enfants sont, certains enfants, la majorité des enfants sont H24 sur les réseaux.
Et c'est ce que disait Jonathan Sixou également, hein, l'appauvrissement du langage, de la culture doivent nous questionner, parce que c'est à partir du moment où on n'a plus les mots qu'on se serre des mains et des poings.
Oui, mais c'est quand même plus large que ça. C'est-à-dire que quand vous faites quand même certains comparatifs avec d'autres pays, d'autres endroits, bon, je peux vous parler du Québec, je vois pas autant de situations comme ça. Donc, en France, il y a quand même un aspect de séparatisme, par exemple, islamiste. Il y a certains aspects de communautarisme aussi. Le gouvernement en prend conscience, il le dit aussi. Là, je veux dire, j'apprends rien à personne là-dessus, dans le sens qu'il y a quand même cette réalité. Et je veux juste revenir aussi, notamment, bon, comme Manon Aubry parlait de les États États-Unis et tout ça. On peut quand même se dire qu'aux États-Unis, il y a aussi cette présence des armes. Donc, il y a ça aussi, ça fait une différence. Mais je pense que la sanction et la judiciarisation, quand il y a des crimes, ça fait aussi partie de la justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour les victimes, il faut penser aux victimes. Et s'il y a des actes, l'impunité crée aussi une situation où...
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas répondre aux ados sur ces questions-là.
Il y a cet aspect-là. Et je veux juste revenir aussi sur l'aspect des femmes et sur...
Est-ce que je peux permettre de vous demander de le faire après le JT, parce qu'on est déjà très en retard, un peu plus de 23h31, l'essentiel en une minute avec Maureen Vidal, et on poursuit la conversation. Promis, Karima, vous prenez le fil de ce que vous disiez dans un instant. Maureen Vidal.
Un nouveau fragment d'os appartenant à Émile a été découvert près de l'endroit où son crâne avait été trouvé par une randonneuse dans le Haut-Vernay. Cette découverte ne permet cependant pas d'avancer sur la cause du décès de l'enfant, selon un magistrat. Aucune de ces découvertes n'a encore permis à ce stade aux enquêteurs d'élucider les circonstances de la mort du petit garçon. À Viry-Châtillon, les obsèques de Chemseddine auront lieu demain dans la plus stricte intimité à la demande de la famille. Un dispositif sera mis en place afin d'assurer le respect de leurs souhaits, a indiqué la préfecture de l'Essonne. Une marche blanche est organisée vendredi en honneur de ce jeune de 15 ans décédé suite à ses blessures après avoir été roué de coups jeudi dernier devant son collège. Les présidents français, égyptien et le roi de Jordanie ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et une libération de tous les otages dans une tribune chez nos confrères du Monde. Ils ont mis en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Gaza. Plus tôt dans la journée, le Hamas examinait une proposition de trêve en trois étapes. La première prévoit notamment un cessez-le-feu de 6 semaines. Enfin, les anneaux olympiques seront installés dès fin avril sur la Tour Eiffel pour les JO. Ces 5 anneaux qui représentent les 5 continents seront visibles côté Seine et notamment au premier plan de la cérémonie d'ouverture organisée de manière inédite hors stade sous forme de parade nautique sur la Seine.
Eh ben ça nous rend très heureux, notamment Eric Revel, qui a accueilli avec joie cette information il y a une seconde. Merci beaucoup, Maureen Vidal. Karima, comme promis, je vous rends la parole. Je voudrais juste que l'on voit ces chiffres publiés notamment par nos confrères du Figaro. C'est vrai qu'on parle de Viry, on a parlé de Montpellier, on aurait pu parler de Tours. L'actualité des derniers jours marquée par ces tabassages d'adolescents scolarisés en collège à quelques mètres de leurs établissements. Le rajeunissement des auteurs affole le monde de l'enseignement. En un an, c'est au collège que le taux d'incident, si on peut envoyer les chiffres, chers amis, en régie, que le taux d'incident grave a le plus progressé. Alors, en plein écran, c'est encore mieux, chers amis, parce que sinon, il faut que je me retourne comme ça. Voilà, merci mille fois. Pour le collège, plus 2,3 points entre 2022 et 2023, soit 15,8 incidents graves pour 1000 élèves. Je ne sais pas si on a les chiffres au primaire, même s'ils sont moindres, puisque c'est au collège que cette hausse est la plus observée. Voilà pour l'école primaire qui s'affiche. 1,6 points de plus, soit 4,6 incidents graves pour 1000 élèves. Je voudrais juste conclure, avant de vous donner la parole, par les mots de Gabriel Attal ce week-end. Se traduisent à l'école des mots que l'on retrouve dans le reste de la société. Perte de civisme, conflictualisation des rapports entre les individus. Et Tatiana le disait il y a un instant, Gabriel Attal, dans ce contexte, dit donc réfléchir à mettre en place des conseils de discipline dès l'école primaire. C'est ça qu'on appelle un électrochoc?
En fait, c'est une mesure, une première mesure. Certains diront une mesurette. Non, je pense que...
C'est même pas des choses qui se gèrent dans les établissements. Non. C'est se gèrent au pénal, ces choses-là.
C'est ça, exactement. Je veux dire, le problème est beaucoup plus profond. Et on parle maintenant d'un jeune de 15 ans qui est mort, battu à mort. Là. On l'a passé littéralement à table. Il a été battu à mort. Si on pense à la jeune Samara, tout à l'heure, je vous parlais de Shaina qui est morte. Et moi, c'est toute cette réflexion sur l'aspect clanique. C'est qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, finalement, on se dit qu'en France, il y a des femmes, des jeunes femmes, notamment, qui sont aussi en danger. C'est-à-dire qu'il y a une pression aussi. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui en France qui ne peuvent pas vivre comme, n'importe quelle Française qui pourrait vivre, avoir cette liberté. Et imaginez la pression aussi et le silence que ça peut imposer aussi pour certaines jeunes femmes et même certains jeunes hommes. On a vu ce jeune qui est mort aussi, ce drame absolu. Donc, en ce moment, il faut juste se rappeler que si on ne fait rien, si on accepte ces logiques claniques, il y a des jeunes filles, notamment, qui sont aussi très vulnérables en ce moment et qui ne peuvent pas exercer pleinement leur liberté en ce territoire, ici, en France, des jeunes Françaises qui ne peuvent pas vivre, finalement, comme tout le monde. Alors ça, c'est absolument inacceptable, intolérable, et ça va prendre plus qu'effectivement un conseil de discipline. Je pense qu'on est rendu à un stade, on a dépassé même le délit.
Le salut ne passera que par deux mots, une conclusion, parce qu'on va, passer les dernières minutes de cette émission à revenir sur ce débat que vous avez suivi sur CNews.
Très vite.
Réponse pénale.
Réponse pénale demandée par de nombreux candidats, notamment aux européennes et d'anciens candidats à la présidentielle. La question des peines planchers, la question évidemment de l'excuse de minorité qui aujourd'hui, pour certains, est une vraie question dans certains cas d'assassinat, qui d'ailleurs n'a été utilisée que deux fois, me semble-t-il. Voilà, il y a plein de questions. La question des places de prison même, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Parce que Gabriel Attal a proposé les conseils de discipline, mais aussi, par exemple, de l'internat. Dès le plus jeune âge, dès 11 ans, 12 ans, est-ce que les internats, c'est une solution? Et puis là, je vois que Nicole Belloubet, ce week-end, avait proposé une pause numérique pour contrecarrer la violence dans les collèges, demander aux élèves de laisser leur téléphone à l'entrée des écoles. Franchement, est-ce que c'est sérieux par rapport à cette
cette
déferlante de violence? Moi, je pense qu'il faut vraiment...
Est-ce que ce monde est sérieux, dirait-on,
des réponses pénales, parce qu'en effet, si la peine n'est pas sûre et effective, en fait, on peut continuer à tabasser d'autres jeunes. Et puis, il faut aussi des réponses éducatives.
Éric, très vite, 30 secondes, s'il vous plaît.
Réponse pénale, là, on parle des ados, on parle pas des primaires. Hein. Je rappelle qu'en primaire, on a 10 ans hein, quand on est en CM2.
Non, on parle des ados, bien sûr, on parle des ados.
Voilà, j'entends même qu'en maternelle, alors on n'est pas évidemment sur une violence pure, mais en maternelle, des reproductions d'agressions chez certains gamins, bien sûr, parce que l'environnement familial joue, pardon Éric.
Bien sûr.
L'éducation.
Mais en fait, c'est un aveu d'échec pour toute la chaîne. Pardonnez-moi de mettre en place des conseils de discipline en primaire.
Ça, c'est absurde.
C'est aveu d'échec pour les parents.
Absurde.
Et c'est aveu d'échec pour les enseignants. Comment est-ce que vous voulez instruire des enfants s'ils ne sont pas éduqués chez eux? Ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, conseil de discipline, c'est de la com à la Attal, pardonnez-moi, comme la taxe lapin pour les médecins. Non mais tout ça c'est de la com, parce qu'on sait
c'est
pas
la carotte,
comment,
la taxe
on
lapin.
Sait pas comment ça peut se mettre en place. Voilà, là, ça c'est la carotte pour la taxe lapin.
C'est pour vous ça, Eric, c'est cadeau. Voilà ce que l'on pouvait dire. Pardon hein, de mettre un petit peu de sourire dans ces débats plus graves qu'autre chose. Mais ça permet aussi de survivre à cette actualité, n'est-ce pas? Il nous reste une petite dizaine de minutes pour revenir, si vous n'étiez pas avec nous, sur ce débat passionnant que vous avez pu vivre entre 21h et 22h, mené par Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, deux candidats, deux têtes de liste pour les européennes. Du coup, comme c'est inversé, je ne sais pas comment le... À gauche de l'écran, Valérie Ayer. À droite de l'écran, Marion Maréchal pour Reconquête, Renaissance puis Reconquête, donc qui débattait, deux candidates que tout ou presque opposent. Pour planter le décor, justement, si vous n'étiez pas avec nous, sur les différentes questions qui ont été posées, j'ai le sentiment que cette question, quelle est la principale menace qui pèse sur la France, sur l'Europe, est-elle russe ou est-elle islamiste? Les deux réponses donnent les deux visions de ces femmes. Écoutez-les.
Je peux vous dire qu'au début, quand on est arrivé au Parlement européen, on était un peu isolés quand on disait qu'il fallait qu'on accélère sur l'Europe de la défense. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapés et nos partenaires maintenant acceptent l'idée qu'il faille qu'on accélère sur l'Europe de la défense. Et véritablement, ça veut dire avoir une véritable industrie de l'armement sur le sol européen, y compris sur le sol français.
Je réponds là-dessus parce qu'on a parlé tout à l'heure. Je crois même que vous êtes pour la mise en place d'une armée européenne, hein, si je ne me trompe pas, j'ai cru. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'on sache exactement de quoi on parle, parce que je crois que vous êtes également, j'en suis même sûre, pour la fin de l'unanimité. En Europe, c'est-à-dire la fin du droit de veto potentiel d'un pays. Donc ça veut dire que si on cumule ces deux propositions, demain, des soldats français pourraient être envoyés en guerre sur un terrain extérieur sans l'accord de la France. Voilà. Je veux bien qu'on comprenne de quoi on parle. Je suis
il y a déjà de la coordination aujourd'hui et des équipes qui travaillent ensemble. Ça existe déjà.
Mais sauf qu'aujourd'hui, aucun soldat français, madame, n'est envoyé sur un territoire étranger en guerre sans l'aval de la France. Voilà. Et ne met
sa vie de son jeu.
Parce que quand on envoie un soldat, si vous voulez, jouer sa vie sur un terrain de coopération, c'est pour défendre les intérêts français.
Deux réponses, deux visions. Qu'en avez-vous pensé, chers invités? Vous allez me le dire dans un instant. Je voudrais qu'on donne la parole à un de téléspectateurs qui avait ce petit QR code avec la question qui vous a le plus convaincu dans ces deux débattrices. Qui vous a le plus convaincu? Écoutez un petit florilège de ce que vous nous avez dit. Oh, j'en perds mon micro. De ce que vous nous avez dit sur les réseaux pour CNews.
Sans aucun doute, Marion Maréchal Le Pen. Pourtant, je ne suis pas du tout de ce bord. Mais là, un discours cohérent, une maîtrise de la parole incroyable. Valérie Ayer, zéro pointé. aucune crédibilité, elle bafouille sur l'Ukraine et la Russie.
Au niveau des trois thématiques qui ont été abordées, il n'y a pas photo, Madame Haye a la maîtrise parfaite des sujets abordés. Et s'il y a une note à lui à donner, je n'hésiterai pas à lui donner la note de 10 sur 10.
J'ai été particulièrement convaincue par Madame Maréchal et regretté que Madame Haye parle en permanence sur les paroles de Madame Maréchal, ou en tous les cas beaucoup.
La candidate qui m'a plus convaincue, c'est Valérie Haye. Elle a un vrai programme pour l'Europe et on a tous besoin de l'Europe.
Eh ben merci à nos téléspectateurs d'avoir réagi sur ce QR code CNews. Qui vous a le plus convaincu, Jonathan Sixou, qui n'était pas là avec nous pour la première partie du débrief?
C'est pas être convaincu ou pas convaincu, on a assisté à un échange entre deux visions totalement antagonistes. Donc ensuite, si vous regardiez cet échange en ayant déjà une idée en tête,
oui, c'est vrai,
vous ne pouviez avoir que la confirmation de vos idées et en regardant l'une
ou l'autre n'a pas réussi à faire changer de bord les éventuels...
C'est rare lors d'un débat électoral.
Ça va être compliqué
hein.
À ce niveau-là.
C'est rare. J'en suis sûr.
Pour être très honnête, il y a des sujets, et notamment par rapport à l'extrait que vous venez de passer, concernant l'Europe de la défense, où Madame Haye est totalement coincée. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'Europe de la défense, mais d'ailleurs quand on parle aussi d'énergie, il y a un partenaire, paraît-il, un allié, nous dit-on, qui est plutôt du côté de l'obstruction permanente, à qui on est totalement inféodé, c'est l'Allemagne. Or, l'Allemagne n'a absolument pas été questionnée à aucun moment par Madame Haye, aussi bien lors de son premier discours de campagne, souvenez-vous, il y a deux ou trois semaines, et encore moins ce soir. Vous ne faites rien sans l'Allemagne. Nous parler d'une Europe de la défense alors que l'Allemagne achète tout son matériel militaire aux États-Unis, j'y vois, à titre personnel, un petit problème.
Et en ligne de mire pour ces deux candidats, tout comme pour tous les candidats au scrutin du 9 juin prochain, les élections européennes, il y a les différents sondages qui tombent régulièrement. Ce sondage CNews, notamment, dans lequel on comprend que c'est Jordan Bardella, bien sûr, pour l'instant, qui fait la course en tête. On va l'afficher et le découvrir ou le redécouvrir ensemble. Si les amis en régie veulent bien m'accompagner, merci mille fois. 29% pour la liste Rassemblement National, qui devrait de 10 points dans ce sondage, la majorité présidentielle, le Parti Socialiste qui est en train de tirer son épingle du jeu, hein, Eric, il faudra en parler, alors que Reconquête est à 7%. En fait, les enjeux du moment pour ces deux candidates, au-delà évidemment de convaincre les potentiels électeurs, c'est, il y a deux questions. Valérie Haye, elle, peut-elle réduire l'écart avec Jordan Bardella qui fait la course en tête? Et Mario Maréchal, passera-t-elle la barre des 5%? On sait que les 5% sont une barre fatidique, indispensable pour les candidats.
Oui, et Madame Haye, dans d'autres sondages, elle est plutôt vers 16-17 points, alors que Raphaël Glucksmann est plutôt à 12-13, voire 14. On va peut-être assister à un moment donné, dans quelques semaines, c'est un constat qu'on peut peut-être imaginer, que les courbes se croisent. Et là, ce serait évidemment un tremblement de terre, parce que jusqu'à présent, du côté du camp Macron, on estime qu'il faut au moins faire 20 points. Je rappelle quand même qu'aux dernières élections européennes, la liste Rassemblement National n'avait devancé celle de Madame Loiseau que d'un point. Un point. Là, on est plutôt sur 10 points. Mais si la liste de Madame Haye fait moins de 20 points, et alors si Raphaël Glucksmann passe devant la liste de Madame Haye, c'est un tremblement.
Ça vous étonne cette progression du Parti Socialiste?
Non,
et de Raphaël Glucksmann?
Mais pour une raison très simple. Enfin, moi, je pense que cette croissance dans les sondages de cette liste est due à trois phénomènes. Le premier, je pense qu'il y a une partie des électeurs de Mélenchon qui ne le suivent plus et qui veulent voter pour une gauche républicaine. Il y a une partie des gens de gauche qui ont voté Macron, qui se sentent un peu cocus et qui se disent bah tiens, on va le manifester là, on va voter pour Glucksmann. Et puis pardonnez-moi, il y a quand même quelqu'un dont on parle pas beaucoup là, je sais même pas combien il fait, ce sont les Verts. Voilà, les Verts sont à 7 points. Là aussi, vous avez sans doute un flux d'électeurs possibles pour Glucksmann. De Verts qui se disent ça sert à rien de voter Vert, votons Glucksmann.
Un petit mot sur Reconquête. Et Tatiana et Johan, sur une petite minute, tous les deux, si vous le voulez bien, moins de 5%, ce serait la fin de Reconquête?
Ah, ça serait en tout cas très Oui, ça serait très difficile pour la suite, effectivement. Si là, Éric Zemmour ne parvient pas à envoyer quelques députés européens au Parlement, c'est vrai que ça serait quand même un handicap assez majeur pour la suite des événements, pour la campagne présidentielle qui arrivera ensuite dans 3 ans, un peu moins, qui commencera dans 2 ans. Est-ce qu'il aura envie de se lancer dans une campagne où il n'a pas fait 5% aux élections européennes? Il va y avoir, je pense, et c'est certain, me semble-t-il, hein, un vote utile dans ces élections européennes. Donc ça va bénéficier évidemment à Jordan Bardella, au détriment jusqu'à quel point de Marion Maréchal et de la liste Reconquête. Et il va y avoir un vote utile à gauche, évidemment, au détriment peut-être d'une partie des Verts, de la France Insoumise, etc. Donc oui, le vote utile, je crois, sera important.
Et même à la liste sur LR, pardonnez-moi, si LR fait un petit score... Oui.
Bah LR, ils sont où là, LR?
Vous qui ne se présentent pas à la présidentielle?
Où est-ce qu'ils sont, LR? Je ne les vois pas. Oui, 8% pour François-Xavier Bellamy. Conclusion, pour favor, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi.
Votre fonction quand même, parce que on sait que les européennes, c'est quand même par définition une élection où il y a une vote sanction en général contre le pouvoir en place. Et Raphaël Glucksmann, justement, capitalise non seulement un vote sanction anti-NUPES, mais aussi Macron. Et puis à la fois, c'est vrai qu'il est dans son couloir de nage, c'est-à-dire qu'il a toujours été tout à fait honnête, très pro-européen, pro-Ukraine. Voilà, il n'a jamais dévié de son axe, donc voilà, on peut aussi lui reconnaître cela. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on ne voit pas... C'est, en fait, l'enjeu là pour Valérie Ayé, c'est de limiter les pots cassés. Parce qu'elle sait que de toute façon, elle ne pourra pas rattraper, a priori, Jordan Bardella.
Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce beau débat qui a eu lieu donc à 21h sur l'antenne de CNews et qui en appellera d'autres d'ici le 9 juin. Sébastien Cacchino, Coralie Deleplace, Martin Mazur, on prépare à cette émission, je les en remercie. Ah, tiens, avant de se quitter, les amis, parce que on accueille, vous savez que Amaury Bucco faisait son retour de vacances. Aujourd'hui, je voulais faire un petit clin d'œil. Vous avez noté qu'il s'est doté d'un nouvel attribut capillaire.
C'était la mode.
Pileux pour l'occasion. Il est parti avec son épouse en Inde. Amaury était avec son épouse en Inde et il nous a envoyé cette petite photo.
Professeur de yoga.
Parce qu'en fait, je voulais vous poser cette question parce que vous m'avez dit je suis avec ma femme en Inde et vous m'avez envoyé cette photo.
C'est les effets du curry.
D'accord.
C'était le professeur de yoga qui... J'ai pris mon premier cours de yoga.
D'accord. Voilà. Alors je vous en demandais pas tant. Mais en tout cas, merci pour cette photo souvenir qu'on peut revoir un dernier instant. Hein, parce que on notera que vous avez un genou de qualité également. Vraiment, très très belle morphologie que celle d'Amaury Bucco. Merci pour ces photos de vacances, Amaury. J'espère que l'Inde vous a plu et que vous en avez bien profité. Merci à nos téléspectateurs de nous suivre fidèlement. On se retrouvera demain, mardi, pour un nouvel épisode de Soir Info, l'édition de la nuit. C'est dans un instant avec Simon Guilin. Passez une très belle nuit.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.